Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 234e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 26 février et au programme de ce soir du Marvel avec la sortie du Spider-Gwen que beaucoup de monde attendait, la suite de Uncanny Avengers pour son deuxième numéro, mais aussi la série de Wolverine ou encore le Thor Annual avec l'histoire écrite par CM Punk. À partir d'un dé, nous reviendrons sur la nouvelle série de Liber Mero, Suiciders, nouvelle série chez Vertigo, et puis la suite de Rasputin ou encore un nouveau projet chez Boom qui s'appelle Curb Stomp. Et enfin, chez DC, le Batman de la semaine, le numéro 39, l'avant-dernier numéro d'Arkham Manor, et puis bien sûr, la partie Batgirl dans Secret Origins numéro 10. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. Et pour présenter tous ces comics avec moi ce soir, Bruno.
Oui, salut à toutes et à tous.
Et peut-être Bonnie qui arrivera plus tard si son être vient, car il a un gros souci d'internet, des travaux chez lui ont fait sauter sa ligne depuis le début de l'après-midi, ce qui fait qu'il ne peut pas être avec nous ce soir, et qu'un peu de chance, ce sera peut-être réparé avant la fin de cette émission. On va démarrer avec du Marvel, Bruno, la fameuse sortie tant attendue de la semaine, le Spider-Gwen numéro 1, on l'a lu tous les deux, ben, tu vas le résumer puis tu vas nous dire ce que tu en penses.
Oui, alors c'est écrit par Jason Latour avec au dessin Robbie Rodriguez. Donc c'est un titre qui fait suite à Edge of Spider-Verse numéro 2, qui était en prologue à Spider-Verse, où le personnage avait été présenté justement par cet auteur et par ce dessinateur. Après, on avait vu Spider-Gwen être impliqué dans l'événement Spider-Verse. Et donc ce numéro 1 de la série Spider-Gwen, donc Ongoing, se passe juste après Spider-Verse avec Spider-Gwen qui revient dans son univers. Et donc ça va être l'occasion de découvrir un petit peu d'autres pans de cet univers parallèle à l'univers 616, dans lequel en fait c'est Gwen Stacy qui a été piquée par une araignée radioactive, et dans lequel c'est Peter Parker qui est mort, et que tout accuse justement Spider-Woman, puisqu'elle ne se fait pas appeler Spider-Gwen dans ce comics, mais bien Spider-Woman, tout accuse Spider-Woman dans la mort de Peter Parker, donc elle est elle aussi détestée, un petit peu comme les Peter Parker et Spider-Man dans l'univers 616. Il y a J. Jonah Jameson aussi qui fait une campagne anti-Spider-Woman, et dans cet univers, on a des petites choses aussi qui changent. On a justement son père qui est encore en vie, qui est également au courant du fait que sa fille est bien Spider-Woman. On a des personnages Marvel comme par exemple Ben Grimm, le Punisher qui font des apparitions, mais dans des rôles complètement différents de ceux qu'ils ont dans l'univers 616. Et le méchant dans ce premier arc, ce sera le Vautour, donc qui lui reste le même personnage. Spider-Woman va essayer d'arrêter le Vautour pour pouvoir un peu revenir dans le cœur des gens de New York en odeur de sainteté. Ça c'est le fil rouge au niveau de l'intrigue super-héroïque, on va dire, mais on va suivre aussi les déboires de Spider-Gwen vis-à-vis de ses soucis avec son groupe de musique, puisqu'elle fait partie d'un groupe de musique, elle était batteur dans un groupe qui est mené par Mary Jane. Et ça s'était pas très bien passé à la fin de Edge of Spider-Verse numéro 2. Et est-ce que ce groupe va continuer? Ça, vous le découvrirez plus tard. Un titre graphiquement, j'ai trouvé ça super sympa. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de hype sur Spider-Gwen. Il y a beaucoup d'artistes qui ont repris le design qui est vraiment très réussi de Robbie Rodriguez. Les dessins sont cool, c'est très coloré. C'est un peu un personnage qui défie l'autorité en faisant des tags un petit peu partout, des tags phosphorescents pour donc c'est un peu une loubarde quand même, mine de rien, je trouve le personnage assez sympathique. Reste à voir quel est vraiment effectivement l'intérêt de ce titre en parallèle de ce qu'on a dans l'univers 616. Est-ce que ce sera suffisamment original? Je crois que c'est quelque chose qui t'a pas spécialement marqué,
Ah
Steve.
ben moi j'ai envie de te dire que, comme tu l'as dit très bien Bruno, quel est l'intérêt de ce titre? Proche du fucking néant. Il n'y a absolument aucun intérêt à ce titre. C'est du n'importe quoi, voilà. Enfin, franchement, il aurait été 10 fois plus sensé et 10 fois plus intéressant d'intégrer Spider-Gwen à l'univers 616, la faire arriver, qu'elle cache son identité. Justement, le fil rouge, c'était que Peter Parker voit arriver ce personnage-là, se demande qui c'est, finisse par découvrir que c'est Gwen Stacy, sa réaction face à ça, sa réaction à elle, face à cet univers où tout est différent, où son père est mort, où elle est morte, tuée par le Green Goblin, ça aurait été un putain de truc intéressant. Là, c'est juste totalement ridicule. C'est ridicule. On veut se séparer à mort de l'univers Spider-Man. Ah bah non, c'est dans un autre monde. Ah non, 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 bah non, c'est pas pour les lecteurs de mainstream. Mais enfin, en même temps, on reprend tous les codes de Spider-Man qu'on remet dedans. Je veux dire, au point même que le premier ennemi qui l'affronte, c'est le vautour.
Clin d'œil.
Chercher l'erreur. Ouais. Il
Wink
y a un moment, le clin d'œil et le ridicule, voilà.
wink.
Voilà, le clin d'œil, je veux dire, le clin d'œil, il y a tellement de clins d'œil que tu as les yeux constamment fermés.
C'est difficile après pour lire le comics.
Non, moi franchement, je ne vois aucun intérêt à ce titre. C'est pas mal écrit du tout. Les dessins sont plutôt agréables. La colorisation est pas mauvaise du tout. Je veux dire, visuellement, c'est très beau. Alors c'est vrai que le costume est très sympathique. Il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est juste un trip hype pour hipster. Voilà. Dans la veine de ce qu'a fait Marvel avec ses espèces d'autres saloperies comme Unbeatable Squirrel Girl. Voilà, c'est un titre pour hipster, quoi. Pour les gens
C'est un
qui se
titre.
disent, qui ne disent, ah non, non, je veux pas lire de mainstream, moi je lis pas de Spider-Man, vous vous rendez compte, attends, Marvel 616, tous ces gens à cause de qui on va voir Secret Wars. Moi je
C'est
les
un titre
remercie.
qui n'est pas pour toi, on va
Non,
dire.
c'est pas pour moi et c'est pour personne, sérieusement, arrêtez ça. À cause de ces genres de titres de merde, on a Secret Wars. À cause de ce genre de titres de merde et de réalité alternative, on va nous détruire Marvel Universe. Donc merci Marvel, merci les gens d'avoir soutenu Spider-Gwen. Vous êtes content, dans 6 mois vous allez rigoler aussi.
Tu pars comme un prince. Non,
Non, mais c'est
moi
ridicule, quoi.
je c'est un titre que j'ai trouvé quand même assez plaisant à lire. Au niveau de l'intrigue, effectivement, c'est pas renversant. Après, t'es pas le public effectivement qui est ciblé pour ce comics. C'est un comics qui attire des gens qui effectivement ne lisent peut-être pas du super-héroïque ou qui ont envie de découvrir un public
Alors,
féminin aussi qui est quand même pas
pourquoi?
mal attiré vers le personnage.
Mais pourquoi faire des références constantes à l'univers Spider-Man? Alors ça n'a aucun intérêt.
Ça reste quand même un univers cohérent et du coup on sait que effectivement tu en parles. On va vers un Secret Wars. Secret Wars, destruction des univers, on sait qu'à la fin il n'y en aura plus que deux, ce sera l'univers Ultimate et l'univers classique. La Terre de Spider-Gwen, elle va très rapidement disparaître. Si Spider-Gwen continue après, c'est qu'elle va intégrer l'univers 616. Donc je pense que c'est juste un premier arc qui nous présente un peu son univers avant de mieux le détruire. Donc, faut voir. Après, si ça se trouve, ça va pas du tout être ça. Hein. Peut-être qu'ils vont, cet univers va être épargné par Secret Wars. Mais moi, j'imagine ça plus. Voilà, on va vous montrer dans quel univers elle vivait, qui sont ses personnages, enfin ses amis, ses ennemis. Et après, ils vont être face à Secret Wars, face à cette destruction de leur terre. Est-ce qu'elle va s'en sortir ou non? On découvrira ça plus tard. Mais voilà, ce que je sais, ce que je vois, c'est qu'au comic shop, ça, il y a eu pas mal de gens qui ont précommandé le titre, qui étaient attirés par le design, par le costume, par l'histoire, et qui aiment bien peut-être Spider-Man à travers le cinéma ou en ayant lu quelques comics. Et bah du coup, retrouver des petits clins d'œil, ça va leur faire plaisir et c'est plutôt sympa.
Ben voilà,
Et
tu donnes le symptôme de tout ce qui va mal dans le comics Marvel actuel.
Ouais, ce qui va mal, ça offre de la variété, on va dire.
Qui a soutenu la boîte depuis 40 ans, depuis 50 ans? Les nouveaux lecteurs?
Ouais, mais
Non.
c'est ce qu'ils
Alors
recherchent,
pourquoi
ils
on
recherchent.
récompense les nouveaux lecteurs? Et pourquoi on chie sur la gueule de tous ces anciens lecteurs qui ont payé depuis des années pour soutenir un univers, pour leur donner du hype? C'est quand même grâce à tous ces gens-là qu'on peut avoir des franchises aussi valorisantes aujourd'hui. Et on leur chie sur la gueule en les récompensant, en détruisant tout.
On verra. Je te sens très amer sur
Oui,
Secret Wars
je
et
suis
tout.
désolé. Je veux dire, ça
Et
n'a aucun sens.
dans ce que nous offre Marvel actuellement, il y a quand même beaucoup de variété et un peu comme ce qu'essaye de faire aussi DC en proposant des titres un petit peu pour tout le monde, bah c'est également le cas. On a
Qui
plus de
cependant
50
reste dans le même
maintenant qui
univers.
sont quand même très différents. Ouais.
Voilà.
Bah, faudra voir. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu ce que Secret Wars amènera, je veux pas me prononcer.
Je vais donner l'avis de Benny, hein, qui vient de m'envoyer un SMS justement. Je lui avais demandé son avis sur Spider-Gwen, puisqu'il l'avait lu aussi pour cette émission, malheureusement. Il ne peut pas être là pour le moment. Pour lui, c'est un concept purement marketing. Pourquoi pas Spider-Man ou Spider-Dog? Marvel, suce ma bip. Voilà. Ça me rassure, je suis pas le seul.
Spider-May, elle existe. Il y a un article de Marty là-dessus.
Oui, mais pourquoi pas une série régulière, quoi.
Ouais, pourquoi pas?
Non, puis pourquoi pas une série régulière sur le voisin de Peter Parker, quand il habitait tout seul avant qu'il se marie avec Mary Jane? Je veux dire, on en est rendu là, quoi. Autant prendre des concepts pourris à ce point-là. Pourquoi pas une série sur son voisin qu'on n'a jamais vu et dont tout le monde se branle, mais apparemment Marvel aime bien faire ce genre de choses. Non, je suis très déçu de la politique Marvel actuelle. Heureusement, il reste quelques bonnes séries, mais pour combien de temps? Pour
Oh,
6 mois?
c'est un méga bail pour toi, donc.
Ah, franchement, enfin, si vous connaissez rien à l'univers Marvel, lisez ça, ça vous fera peut-être plaisir, ouais, c'est sûr. Mais si, comme moi, vous aimez l'univers Marvel classique, l'univers Marvel interconnecté, l'univers Marvel avec sa continuité, un univers Marvel où on récompense le lecteur de longue date, c'est absolument pas un titre pour vous. Si vous aimez Spider-Man, ce n'est pas un titre pour vous non plus. C'est donc un gros pass. Un gros, gros pass. C'est mon pass de la semaine.
Il y a le coup de cœur de la semaine et il y a le pass de la semaine. Donc moi c'est pour moi c'est un bail quand même parce que j'irai voir la suite et j'ai trouvé le titre assez plaisant. C'est pas renversant
Une fois
mais
encore,
c'est un bail.
je te me permets juste de te couper. C'est un pass question histoire et scénario. En termes de storytelling, en termes de dessin, c'est très propre et c'est un très beau produit. Là, par contre, je n'ai absolument rien à dire de ce côté-là. C'est bien écrit et c'est très joli. Même si cette histoire de putain de groupe de merde de Mary Jane, c'est vraiment naze. Naze et mal écrit, par contre, ça. Mais bon. Voilà,
Ouais,
excuse-moi, je
alors
t'ai coupé, mais voilà,
non, mais
je voulais vraiment contrebalancer le fait que
moi
je dise que c'est un pass,
c'était un petit
c'est
bail,
uniquement
mais
sur l'histoire, hein. Voilà.
moi c'est un petit bail et du coup bah, j'espère par contre que Marvel te satisfait plus avec ta review suivante.
En effet, Daredevil numéro 13, toujours par l'équipe de Mark Waid et Chris Samnee, que j'allais appeler Chris Waid et Mark Samnee.
Ça peut le faire.
à tel point ils sont ensemble que les mecs ont fusionné et interchangé leurs
Fusion.
prénoms. C'est un nouvel arc qui débute pour Daredevil. On se rappelle à la fin du dernier arc, celui-ci avouait à sa petite amie qu'il l'aimait. Ce qui lui fait un choc. Il a du mal à s'en remettre, puisqu'il n'en reparle pas ni l'un ni l'autre. Et lui, il le craint parce que on sait comment toutes les petites amies de Daredevil ont fini. Pas bien. Pas bien
Oui.
du tout. Et donc, il a un peu peur pour lui. Pensant à la Foggy qui écrit son autobiographie pour le compte du père de Kristen, justement, qui tient une maison de publication, a une petite discussion avec lui par rapport à ça, justement, au fait qu'il réfléchisse trop ou qu'il ne réfléchisse pas assez. On voit depuis le début de l'épisode que Matt est surveillé par quelqu'un qui le regarde à distance. Et c'est le retour du hibou.
Ah.
C'est le retour du hibou. Alors oui, je le spoil, mais parce que c'est au tout début. Et peut-être que ce hibou n'est pas seul. Voilà. C'est surtout ça l'intérêt. Qui est avec lui? Parce que le hibou, on l'avait vu frapper dès le début de ce relaunch, mais il n'y a pas que lui maintenant. Et justement, ce que craignait Matt Murdock depuis le départ, que quelqu'un s'en prenne à sa petite amie, c'est ce qui va t'arriver avec une liaison qui n'existe pas. C'est ce qui va t'arriver. Donc,
Ça va t'arriver à toi.
c'est ce qui va arriver à Kirsten. Elle est dans un coffee shop avec son père, en train de discuter. Et quelqu'un vient l'enlever après avoir gazé avec un gaz qui endort tout le restaurant, enfin tout le coffee shop. Elle se fait enlever et Daredevil va se lancer à sa poursuite et rattraper le tueur. Mais qui est ce tueur? Justement, c'est tout l'intérêt. Je vais pas en dire plus. Il y a encore d'autres surprises à venir dans le numéro. Je vais vraiment pas en dire plus pour vous laisser un maximum de surprises. Mais franchement, cet arc s'annonce très très bien parce que gros retournement de situation sur la fin. Et j'ai hâte de voir où il va nous emmener puisque on sait que la fin de Mark Waid et Chris Samnee sur le titre approche à grands pas. Les pauvres, je les comprends, ils ont envie de se barrer après Secret Wars et ne surtout pas être là-bas quand ça va recommencer. Je les comprends, les pauvres. Donc moi, c'est un gros bail. Heureusement, il reste quelques séries comme ça, comme d'autres dont on va parler juste après. Mais il en reste peu, et plus pour longtemps. Et c'est bien le problème. Donc gros bail pour ce Daredevil numéro 13. On continue avec toi, Bruno. Tu nous parles d'Uncanny Avengers numéro 2 que je n'ai pas eu le temps de lire cette semaine.
Oui, c'est écrit par Rick Remender avec au dessin Daniel Acuna. Après un premier numéro qu'on avait trouvé sympathique, mais peut-être pas aussi bon qu'on aurait espéré pour un numéro 1, ce numéro 2, je trouve, relève vraiment le niveau. C'est très très bon. Donc alors, on est sur un pitch actuellement où on s'intéresse à la Counter-Earth, donc cette planète qui a été créée sur le modèle de la Terre, qui se trouve à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, et qui est gérée par le High Evolutionary. Et donc sur cette planète, en fait, il y a Quicksilver et Scarlet Witch qui sont partis pour essayer de savoir qui est vraiment leur père. Donc pour cela, ils vont voir directement la personne qui a aidé Magda à accoucher, donc à savoir le High Evolutionary, et en apprendre un peu plus sur vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Du coup, les Uncanny Avengers se sont rassemblés pour essayer d'aider leurs amis Quicksilver et Scarlet Witch. Ils décident de partir sur la Counter-Earth, et malheureusement, à la suite d'un sort de téléportation qui fonctionne pas très bien de la part de Dr. Voodoo, puisqu'ils sont interrompus, tous les personnages, que ce soit Rogue, Captain America, Dr. Voodoo, Vision et Sabretooth, se retrouvent en fait dispersés sur la Counter-Earth. Donc là, dans ce numéro, ça commence avec une scène choc où on a le High Evolutionary qui constate dans la capitale que ses expériences génétiques sont ratées, que les créatures qui peuplent justement cette capitale ne sont pas parfaites, et qui dit qu'il va tout recommencer à zéro. Et là, ça commence avec un génocide complet de la ville. Ça commence vraiment très très bien pour toutes ces pauvres créatures mi-humaines, mi-animales qui se font défoncer.
Ah, c'est comme ça que t'appelles très très bien, toi.
Et donc, on va découvrir très rapidement qu'en fait, un des sous-plots de cet arc, ça va être justement la résistance, avec un groupe de personnages qui vivent sur cette planète et qui ont justement essayé de trouver un moyen de s'opposer à leur tyran. Et pour cela, ils vont avoir besoin peut-être de l'aide justement de Scarlet Witch et Quicksilver. En parallèle, on a Sabretooth qui est vraiment en très mauvaise posture avec le, puisqu'il est face à ouais, Evolutionary, et il se fait complètement défoncer. On a Dr. Voodoo qui se retrouve face à face à tous les spectres des personnes qui ont été annihilées par leur tyran. On en apprend un peu plus aussi sur Captain America, qui lui est vraiment dans une très très mauvaise situation. Alors, j'ai pas très bien compris ce qui va se passer pour lui, mais ça sent quand même assez mauvais. C'est très rythmé, c'est toujours aussi joli, hein, les dessins de Daniel Acuna, c'est vraiment magnifique. On voit qu'il a une idée derrière la tête. On a un cliffhanger avec un personnage qui apparaît, qui aura peut-être une importance justement par rapport au fil rouge principal de la série. Ça, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. J'attends de voir ce qu'ils vont nous dire sur ce personnage, mais en tout cas, c'est intriguant et ça me donne envie d'aller lire la suite. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très bon comics, donc un bon gros bail.
Putain, j'aurais dû lire ça au lieu de lire Spider-Gwen.
Je pense que oui.
Oh merde. On passe à la suite, on va parler de Wolverines numéro 8, série qui nous fait l'ascenseur émotionnel depuis quelques numéros, hein. Ça démarrait bien, ça devient pourri, ça remonte un peu, ça redevient pourri, on sait plus quoi en penser.
Ouais.
Ce numéro est scénarisé par Ray Fawkes, aïe aïe aïe.
Aïe.
Ouais, les deux derniers par Ray Fawkes étaient quand même vraiment pas bons.
C'était pas terrible.
C'est Rwando qui est au dessin. Alors, dans cet épisode... Rappelle-toi, le dernier épisode, on avait cette espèce de mec qui arrivait un peu tel
oui,
le phénix.
Ah oui, c'est vrai, tiens, oui, c'est vrai.
Tel le phénix, et qui disait « Oh là là, vous avez tué mon meilleur ami, Wolverine, etc. » Il s'agit d'un des membres de la garde impériale, Fang.
Ah, super.
Alors, première nouvelle, tu sais, celui qui ressemble à Wolverine au niveau du costume, avec l'espèce de dents, là.
Oui, oui, je vois très bien, oui.
Première nouvelle, c'était son meilleur ami.
Ah, voilà. Peut-être, hein, j'ai pas trop de connaissances sur ce personnage. Bon, ils ont le même costume, mais...
Non, mais non, quoi. Juste non, quoi. On va avoir des flashbacks où on voit que Wolverine et Fang se rencontraient tous les ans et se bourraient la gueule et bastonnaient tout ce qui passait. Ils étaient contents, ils passaient une très bonne journée, voilà. Et là, ça fait un an, et donc du coup, ils revenaient pour ça.
Ah, rétro-continuité.
Et comme il est persuadé que dans toute cette petite bande de Mystique, Sabretooth, Lady Deathstrike, Deacon, etc., l'un d'eux est responsable de la mort de Wolverine, eh ben, il se casse la gueule. Mais il est méga balèze, c'est un extraterrestre, il est fait voler sur des milliers de mètres. Enfin, franchement, c'est un épisode totalement what the fuck.
Oui, ça a l'air bizarre comme ça.
Il se bastonne la gueule, voilà. Tout ça pour arriver à la situation finale de « Bon, bah apparemment, c'est pas vous qui l'avez tué, c'est cool, moi je suis venu pour me détendre pendant une journée, alors bah puisque Wolverine n'est pas dispo, bah vous allez le remplacer, et on va s'amuser ensemble. »
What the fuck ?
Voilà, ouais, fin de l'histoire.
Ouais, c'est chelou.
Non, fin de l'histoire, vraiment.
Ah, c'est chelou. Ouais.
Je sais vraiment plus quoi penser de cette série, quoi. Alors, c'est pas que c'est pas drôle, hein. Mais le problème, c'est que ça n'a pas commencé comme une série comique.
Non, oui, c'était plutôt dramatique, hein, même au départ.
Là, on en est le talent en moins, mais on est proche d'une série à la supérieure fausse de Spider-Man, quoi.
Ah,
le talent pour les blagues en moins, hein, et les situations décalées. Enfin, je veux dire, on commence sur une série hyper sérieuse. D'un seul coup, on se vire, ça vire comme ça. Je comprends pas où ils vont. Là, je comprends plus où ils vont dans cette série, vraiment.
Et ça t'amène sur une autre petite histoire derrière, enfin péripétie.
Non, il prend Deacon, il fait bon, bah c'est avec toi que je vais commencer, et il s'arrache. Et ça se termine comme ça.
Deacon qui est toujours avec un bras en moins et un œil en moins.
Alors, on a des grosses scènes super dégueulasses, hein. Deacon qui explose la tête de Fang à grands coups de griffe, qui lui transperce le crâne, etc. Mais enfin, c'est un épisode franchement qu'on peut zapper, quoi. Je vois pas l'intérêt, je vois, il y a pas d'histoire de fil rouge, on ne repart pas sur le plan de Mystique, rien.
Non, et puis c'est surtout qu'en fait c'est super anticlimactique par rapport à la fin du numéro d'avant, quoi. On s'attendait à la big révélation de ouf, et au final c'est juste pour faire un truc rigolo.
Bah ouais, t'as l'impression d'un gros foutage de gueule quand même. Hein.
Ouais, c'est bizarre.
Mais vraiment, je ne sais plus quoi penser de cette série. Bon, clairement, Ray Fawkes sur cette série n'est pas à sa place. Laissons-la à Charles Soule. Mais même Charles Soule n'est pas en grande forme sur cette série. La preuve avec la semaine dernière, l'épisode était plutôt pas mal, mais enfin pour accoucher de ça. Donc je vais dire un pass, franchement, pour ce numéro. Celui-ci on peut le zapper. J'ai l'impression que le prochain aussi, puisque il y a de fortes chances que ce soit encore Ray Fawkes et que ça continue sur cette histoire de merde avec Fang. Mais où va la série ? Le but, c'était récupérer le corps de Wolverine pour que ces fameux membres du groupe Paradise, dont il ne reste plus que Shogun d'ailleurs, puissent avoir un facteur auto-guérisseur et surtout ne meurent pas. Et tout ça, ça... Voilà, là, c'est devenu l'équipe de Mystique qui a un but, ramener Destiny, apparemment, hein, ce que l'on sait depuis la semaine dernière. Mais ça n'a pas avancé d'un iota. Sur 8 épisodes, il y en a déjà quand même 4 qu'on aurait pu virer. Ça commence à craindre.
Ouais. Ils n'ont pas très bien négocié le deuxième mois, quoi. C'est-à-dire ouais. Le mois de janvier, ça allait, mais le mois de février, c'est...
Ça partait bien, ouais. Ça partait bien, puis là, ça s'écroule, quoi. Je ne sais pas combien de temps je continuerai cette série, honnêtement. Mais bon. Voilà. Je sais pas si j'irai lire le prochain, franchement. Donc, passe-moi pour moi. Hein. On va pas perdre plus de temps là-dessus. Hein. On va passer à la suite, Bruno. Une série écrite par Charles Soule que tu aimes beaucoup. Inhuman, ouais. Numéro 12. Est-ce que ce numéro est toujours aussi bon que le reste?
Bah, c'est toujours aussi sympa. Donc, c'est Charles Soule, effectivement, avec Ryan Stegman au dessin. Donc, encore une fois, une équipe créative assez solide. Stegman est très très bon sur les dessins d'Inhuman. Ça conclut la petite histoire qui concerne justement cette attaque d'un autre clan des Inhumains qui s'appelle Enilux, qui attaque New Attilan parce que bon, j'avais expliqué dans le précédent numéro, mais c'est qu'il y a un personnage en fait qui a des pouvoirs spéciaux, et donc le chef de la cité d'Enilux aimerait pouvoir utiliser les pouvoirs de cette Inhumaine, et comme ça mettait quand même sa vie en danger, Du coup, la personne, enfin, c'est assez compliqué. Oh là, je m'y perds moi-même. En tout cas, c'est vachement bien et c'est passionnant. Et là, en fait, on a une grosse baston entre Enilux et Attilan, avec le retour de Médusa après la phase Axis où elle avait abandonné New Attilan, et le retour aussi de Black Bolt. Et donc ça, c'est la partie la plus importante du comics, puisque Black Bolt a réussi à se défaire de la soumission de son frère Maximus, qui le tenait un petit peu en laisse depuis plusieurs numéros. Et donc il revient et il essaie de remettre un peu les choses à plat avec Médusa. Et du coup, on va en apprendre un petit peu plus sur l'avenir de la cité Attilan, sur qui va diriger la ville. Puisque bon, Black Bolt a quand même beaucoup de choses à se faire pardonner, puisque c'est lui qui a quand même fait exploser la bombe avec la bombe de Terrigène. Toujours aussi sympa, avec toujours ce cast de personnages inhumains qui se développent, de jeunes inhumains avec vraiment des personnages assez charismatiques. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très sympa, ça se suit bien. Puis c'est assez touchant. Encore une fois, il y a des dialogues qui sont assez justes. La dernière page du numéro est plutôt belle. Donc pour moi, c'est un bon bail, ce numéro.
On continue avec le Superior Iron Man numéro 5. C'est toujours écrit par Tom Taylor, évidemment. Avec au dessin Laura Braga. Alors, c'est une série qui est très compliquée. Pour moi, c'est très très compliqué comme série parce que je la déteste et en même temps, elle est géniale. Je la
Attirance,
déteste, ouais, je la déteste parce
répulsion.
que je supporte pas ce qu'ils ont fait d'Iron Man. Cet Iron Man connard, je peux pas le saquer. Mais en même temps, c'est tellement bien écrit. Et c'est horrible. C'est horrible parce que il y a ce paradoxe de cette série qui trahit tout, qui ne mène à rien, et en même temps qu'on ne peut pas s'empêcher de suivre. Je me faisais la réflexion en lisant la fin du dernier épisode, l'épisode 4, où la situation avec Daredevil était plus ou moins réglée. Rappelez-vous, il finissait par triturer la mémoire de Daredevil et lui faire tout oublier. Ça me donne cette impression d'une série où on suit un anti-héros tel un The Shield, tel un Breaking Bad, et finalement on en vient à être pour cet anti-héros. La seule différence, c'est que là, il touche à des héros que l'on connaît. Et ça marche beaucoup moins bien, parce que quand ce sont des personnages gentils qui se font avoir dans une série, mais qu'on ne connaît pas et qui n'ont d'incidence sur rien d'autre, la chose marche. Là, ça marche beaucoup moins bien. Il n'est fait aucune mention de cette perte de mémoire dans la série Daredevil. Et on sait très bien que Iron Man a un plan supplémentaire concernant Daredevil, chose dont il n'est absolument pas fait mention ni dans cet épisode ni dans la série Daredevil. Et ça, c'est gênant. C'est pour ça que je dis que ça fonctionne pas à ce niveau-là.
Ouais.
Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est ce personnage qui est écrit comme une ordure, mais la pire ordure du monde. Là, dans cet épisode, on va assister à l'origine de ce fameux Teen Abomination,
Oui,
concept absolument
qui est là
nul,
depuis le début, hein, depuis le premier numéro d'ailleurs.
concept absolument nul, mais personnage auquel on s'attache finalement, parce qu'on voit que ce pauvre gamin a eu des problèmes, notamment par la faute de Tony Stark. Je vous laisse découvrir son origine dans ce numéro, mais voilà. Ce qui est insupportable, c'est la façon dont le traite Tony Stark. Il passe son temps à l'appeler le monstre. Oui, je veux pas qu'un monstre comme toi, je veux pas qu'on me voie avec un monstre comme toi, va te cacher dans le labo, je reçois du monde. Enfin, c'est terrible.
Un gros con, quoi.
Pensez que c'est quand même un ado de 13 ans qui passe son temps à entendre dire que c'est un monstre. Il le sait que c'est un monstre. Alors en plus, on lui remet dans la gueule. Et c'est horrible. On a juste envie de frapper Tony Stark. Mais justement, c'est parce que c'est bien écrit qu'on a envie de le frapper. C'est vraiment paradoxal. C'est paradoxal. Donc oui, c'est très bon et en même temps, c'est abject. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à donner un avis là-dessus. Le mec lui dit quand même, oui, de toute façon, bon, maintenant que je sais quelle est ton origine, et surtout, on va découvrir qui est le père de ce fameux Teen Abomination, ce qui va changer un petit peu la donne pour Tony Stark. Il a plus envie de l'aider parce que sinon, comme il lui dit clairement, sinon je t'aurais simplement démembré et j'aurais essayé de trouver un moyen de me faire du fric avec ce qui t'est arrivé. Imaginez Iron Man qui dit ça quand même.
Oui, c'est quand même assez extrême.
C'est extrême, voilà. Je vois pas cette situation durer des années et des années. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Il va falloir que ça s'arrête assez vite parce que le concept ne pourra pas fonctionner des années. Ça, c'est clair. Même sur 12 numéros, ça commencera à être un peu trop. Il va falloir trouver une bonne explication pour le faire se réinverser.
Mais là, du coup, en fait, Tom Taylor vraiment réutilise un peu c'est ce qu'il avait utilisé sur Injustice, quand même, avec un Superman qui devenait justement une sorte de dictateur et un gros connard.
Bien sûr,
mais
bien
qui gardait quand même effectivement un peu d'humanité, et on en venait parfois à se dire, bah, s'il fait ça, c'est quand même la suite d'actes assez dramatiques, quoi.
Oui, sauf que là, il n'y a absolument aucune humanité. Je veux dire, ouais. Le plan de Daredevil était bien expliqué. Enfin, il avait découvert le plan d'Iron Man, c'est pour ça qu'il lui effaçait la mémoire. Il savait très bien, il avait très bien entendu, puisque grâce à ses super sens, que ce virus, enfin cet Extremis 3.0, cette app qui rendait un peu fou les gens, c'était surtout un virus.
Ouais.
Voilà. Et voilà, on voit que Iron Man est devenu la pire ordure de l'univers. Donc c'est pour ça que ça peut pas continuer longtemps. Pas avec une franchise Iron Man au cinéma aussi importante. On sait comment est Marvel et Disney. Et deuxièmement, où est-ce adressé dans les autres séries?
Bah on l'avait vu dans New Avengers, il était encore sous l'effet d'Axis, hein, quand on est dans l'époque Time's Run Out. Donc ça peut durer encore quelques mois.
On mettait une grenade, c'est tellement déconnecté que... Voilà. C'est un peu le problème de la continuité, quoi. Enfin bon. Ça reste un très bon épisode à lire pour l'origine d'Abomination, pour la façon dont écrit Tom Taylor, un personnage totalement horrible. Donc c'est très bon, mais en même temps, c'est détestable à la fois. Donc un bail quand même. J'ai du mal avec cette série à savoir si c'est juste un coup de génie, si c'est juste pas bien. D'avoir fait ça, je sais pas. En tout cas, ça reste toujours fun à lire. Voilà, c'est au moins déjà ça. On continue avec toi, Bruno. Le numéro 2 de Darth Vader, est-ce toujours aussi bon?
Eh bien, oui, c'est toujours sympa. Alors, c'est peut-être un peu moins efficace que le premier numéro que j'avais trouvé assez excellent. Mais on continue de suivre un petit peu cette Vador qui essaye de revenir dans les grâces de l'Empereur après... la destruction de l'étoile noire qui lui est complètement imputée. Du coup, Vador se retrouve sous les ordres d'un homme, d'un gars qui en fait s'était opposé à lui dans l'épisode 4, qui était contre justement le fait d'avoir uniquement une seule arme, qui était plus pour le fait de développer l'armada de Star Destroyer et compagnie. Et donc on a un Vador qui est obligé d'obéir aux ordres d'un être humain qui pour lui n'est qu'un insecte, et donc ça c'est quand même assez difficile à avaler. Et dans ce numéro, en fait, donc Vador va être envoyé justement par ce général pour faire une mission. Pendant cette mission, il va être également espionné par justement un petit soldat qui est envoyé par le général pour surveiller les moindres faits et gestes de Vador. Chose qui a tendance aussi un peu à l'irriter, mais c'est assez bien foutu. On a Vador qui se retrouve à essayer de devoir démêler un problème de vol par des pirates d'une cargaison impériale, et il arrive à très très bien gérer tout ça. C'est un perso qui est quand même super classe, Vador, et il est très très bien écrit. On voit qu'il a du mal à accepter ses erreurs justement pendant l'épisode 4, et là il veut à tout prix revenir dans les grâces de l'Empereur, et par tous les moyens, et c'est ce qui se développe dans ce deuxième numéro. Au niveau des dessins, c'est toujours aussi bon. Par moments, enfin il y a peut-être quelques visages qui sont pas super réussis, mais ça reste quand même assez classe. Et tout ce qui est vaisseau, scène d'action, enfin on a des explosions aussi qui sont très très bien représentées. Bon voilà, ça c'est un numéro un petit peu intermédiaire quand même, parce qu'on a ça avance pas énormément sur le plot qui était développé dans le premier numéro avec les chasseurs de primes qui avaient été engagés par Vador via Jabba the Hutt. Et par contre, on a une dernière page avec un nouveau personnage qui est introduit, enfin dans la prochaine issue, on nous montre la couverture. Là, ça m'intéresse pas mal parce qu'ils vont ajouter de nouveaux persos dans la mythologie. Et ça peut être intéressant.
Donc, est-ce qu'on voit le Dark Chewbacca, le Dark Bacca?
Non, justement, voilà, c'est pour ça. C'est ça qui m'a un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'on les aperçoive quand même un petit peu mener leur mission. Et eux, on les voit pas du tout dans ce numéro. Donc, probablement.
Je sais pas comment l'appeler, Chewbacca Dark ou Dark Bacca.
Chewbacca Dark. Ce Chewbacca Dark, quoi. Et, mais voilà, mais ça reste quand même du bon comics Star Wars. Et donc ce sera un bail.
On va continuer avec juste la petite histoire écrite par CM Punk dans le fameux Thor Annual. Ça nous intéressait parce que CM Punk est un catcheur. Donc le podcast, hein, rappelez-vous, dimanche à 20h30 sur Synops Live. Ce Thoranul, je n'ai lu que ça, toi aussi, hein, Bruno, je crois.
Oui, je n'ai lu que ça. Moi, c'était plus pour le côté Rob Guillory, puisqu'effectivement, c'est Rob Guillory qui dessine cette partie.
Donc le dessinateur de Chou, évidemment.
De Chou, oui. Donc ça m'a pas mal intrigué. Après, j'ai quand même feuilleté aussi pas mal le reste. Il y a une histoire dessinée par Marguerite Sauvage qui est graphiquement très jolie.
C'est d'une beauté, c'est incroyable. Voilà. C'est féerique.
C'est juste que j'ai pas eu le temps de le lire, mais ça a l'air quand même pas mal.
Ah, franchement, c'est superbe. Marguerite Sauvage, c'est juste magnifique, quoi. C'est vraiment du dessin de conte.
Oui, c'est ça. C'est un livre de conte, quoi.
La colorisation joue beaucoup aussi, mais putain, c'est superbe. Alors, revenons à l'histoire écrite par CM Punk et dessinée par Rob Guillory. Alors, Rob Guillory, c'est vraiment cool, hein, sur Thor, surtout sur une histoire comique, parce que précisons-le, c'est une histoire comique. Ça marche très bien. Cependant, il est quand même nettement moins en forme que sur Chou.
Oui, oui,
Beaucoup plus de détails dans le fond des cases sur Chou, etc. Là,
il a mis moins de temps, je pense, à bosser dessus, quoi.
Il y a assez peu. Néanmoins, ça reste fun de le voir. Alors, l'histoire. Thor a envie d'aller essayer de décrocher Mjolnir, de le soulever, hein, tel Excalibur, sauf que là, c'est un marteau, on est dans la mythologie nordique. Donc, c'est l'époque du jeune Thor. Il n'est pas encore le Thor que l'on connaît avec son Mjolnir, etc. Et il faut qu'il fasse des grandes actions pour ça. Et donc, quelles grandes actions va-t-il faire? Eh bien, il va le défier tout le monde dans un concours de boissons. Et il a battu tout le monde, mais à ce moment-là arrive Mephisto qui revient dans le temps pour essayer de battre Thor quand il est jeune, parce que c'est là qu'il est le moins fort, le plus faible en tout cas dans l'histoire. Et Loki va être là et va s'amuser un petit peu. Voilà. Je vais pas en dire plus.
Non, non, mais voilà, c'est ça. C'est un concours de beuverie, quoi. Donc c'est parfait pour le jeune Thor et c'est parfait pour les dessins de Rob Guillory. On a droit à des pages assez sympas où on voit tout un type de boissons qui sont présentées, qui donnent plus ou moins envie, on va dire.
Moins que plus, mais...
mais en tout cas, c'est fun, quoi. C'est une petite histoire sympathique et avec deux dernières pages qui m'ont bien fait marrer. Donc, ça fait le job, quoi.
Il y a quand même un truc qui m'a énormément surpris. C'est que CM Punk, bon, ça va, bon, il joue un peu le côté comique, le côté un peu ancien de Marvel à bien détailler l'action, etc. Mais on sent que c'est volontaire, que c'est pas un style d'écriture qu'il aurait, c'est vraiment juste pour accentuer le côté comique. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fasse une histoire sur un concours de beuverie, quand même. Venant de la part de CM Punk, c'est très étrange, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, CM Punk est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un Thread Age aux États-Unis. C'est-à-dire quelqu'un qui voit que la pureté du corps, c'est-à-dire qui ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas. Voilà.
D'accord. Ok. C'est
quelqu'un
connu,
qui tourne à l'eau et au coca, quoi. Enfin, oui, non, c'est un mouvement très connu, hein, le mouvement Straight Edge. Ouais. Quelqu'un qui.
Mais lui, il sent.
Ah oui, c'était son gimmick dans le catch, mais il est vraiment comme ça dans la vie. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se drogue pas.
D'accord, oui, donc c'est vrai que c'est amusant.
Donc c'est quand même assez,
histoire là-dessus.
Voilà. C'est assez bizarre de le voir faire une histoire sur un concours de beuverie, quoi. C'est vraiment zarbe. Mais bon, moi ça m'a fait d'autant plus marrer quand on sait ça, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, après, va-t-on noter vraiment le numéro?
Non, parce qu'on n'a pas tout lu, mais voilà, le numéro est composé en trois histoires. Une histoire avec le vieux Thor, le Thor actuel, donc la Thor femme, et le jeune Thor. Et ça a l'air quand même plutôt solide comme numéro annual, qui est quand même à $5, donc voilà. Mais en tout cas, l'histoire de CM Punk était assez marrante.
Oui, franchement, ne l'achetez pas que pour ça, ça n'en vaut pas le coup. C'est une histoire sympa, mais ne l'achetez. Ça ne vaut pas l'achat que pour cette histoire-là. À savoir qu'il y a aussi une histoire donc sur le vieux Thor, écrite par Jason Aaron, avec quand même, dans les dernières pages, un bestiaire totalement ouf, hein, des zèbres à ailes de papillon.
Ah non, j'ai pas vu ça.
Des éléphants à trois défenses.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal.
J'ai feuilleté, je me suis dit, quoi, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ils ont fumé un peu, c'est Jason Aaron qui a fumé un peu.
Mais voilà, on ne jugera pas ces histoires-là, puisqu'on ne les a pas lues. C'est vrai que par contre, le dessin de Marguerite Sauvage, waouh.
Ouais, sur la deuxième histoire, ouais, superbe.
Bref, passons à la suite. Bruno, tu vas terminer notre partie Marvel avec deux reviews. D'abord, oui. Fantastic Four numéro 643.
Oui, 643, tu te rends compte? C'est la folie. Donc
Ouais, numéro
voilà,
18, quoi.
retour à la numérotation originale pour le dernier arc des Fantastic Four. Bon, je vais pas m'apesantir dessus puisque c'est on va vraiment vers le climax de cette histoire, toujours qui concerne un vilain qui a réussi à récupérer en fait le monde des rêves de Franklin et qui en a extrait les héros pour pouvoir attaquer New York. Il a réussi aussi à capturer Reed Richards et en fait il lui apprend qu'il était derrière pas mal des menaces qui ont touché les Fantastic Four. Comme on est comme ça concerne justement un monde des rêves, eh bien ils vont faire appel les Fantastic Four qui sont encore Suzanne Richards, Ben Grimm et Johnny Storm. Ils ont décidé de faire appel au Sleepwalker pour les aider et à justement combattre ce vilain. Et donc c'est l'occasion dans ce numéro d'en apprendre un peu plus sur le Sleepwalker, sur le fonctionnement de cette entité qui est capable d'aller dans les rêves. Voilà, c'est aussi la grosse baston générale puisqu'on a pas mal de monstres qui viennent de ce monde des rêves qui débarquent sur la Terre. C'est très bien rythmé, c'est très joli, les dessins c'est toujours Leonard Kirk et c'est très propre. Il y a un bon petit twist avec Reed Richards que j'ai trouvé assez classe. Voilà, on va vers la fin de cette série qui reste toujours aussi bonne. C'est dommage qu'elle s'arrête, mais en tout cas, c'est un bon moment de lecture. Donc, un bail.
L'autre review, c'est le New Rangers numéro 30.
Voilà, donc là, c'est Jonathan Hickman. Au dessin, on a Dalibor Talagic. Je suis un petit peu moins fan des dessins de Talagic. Ça reste pas mal, mais bon, il y a eu de meilleurs artistes sur les titres Avengers et New Avengers récemment. Mais par contre, c'est quand même un numéro ultra important, puisque dans le précédent numéro, on avait découvert que Hank Pym avait été envoyé dans l'espace pour enquêter sur la personne qui est à l'origine justement de ces incursions qui détruisent un peu le multivers. Il avait fait la découverte en fait d'une race qui sont les Beyonders, qui en fait du coup sont une race ultra puissante qui sont peut-être pas derrière les incursions, mais qui sont en tout cas mêlées à pas mal de destructions de monde.
Et
Et
notamment
donc
de Secret Wars, le premier du nom.
voilà, même si effectivement ils parlent du premier Beyonders et ils disent qu'il est peut-être relié à eux, mais que c'est un petit peu différent quand même. C'est un peu plus compliqué que c'est peut-être pas exactement la même, enfin c'est la même espèce, mais ils ont pas les mêmes pouvoirs. Mais en tout cas, c'est l'occasion de nous présenter en fait ce qui lui est arrivé à Hank Pym et on va avoir le retour des Builders.
Ce qui lui
Donc
est arrivé à Hank Pym, c'est qu'il est passé au cinéma, putain de merde.
il va passer au cinéma bientôt.
Oh, mais attends, regarde, regarde cette arrivée du look, quoi. C'est tellement forcé, ça en devient mauvais, quoi.
Mais là, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Là, on est vraiment dans le truc d'Hickman et c'est là, il nous reparle justement des Builders qui avaient disparu un petit peu depuis Infinity. Et on va tomber en fait sur des batailles cosmiques, mais à grande grande échelle. C'est hyper impressionnant, c'est vraiment très cool. Et on va avoir enfin la révélation sur ce qui s'était passé dans un ancien numéro de New Avengers, un des tout premiers, qui était assez étrange, où on avait vu que Tony Stark et Watu avaient découvert le cadavre du tribunal vivant sur une planète. Et voilà, si le tribunal vivant peut être tué par une entité cosmique, c'est que le monde est un petit peu dans la pagaille. Parce que c'est quand même un peu une entité qui est capable d'annihiler les pouvoirs des gemmes de l'infini. Et donc voilà, et donc le tribunal vivant est mort. Et que va-t-il
Oui,
se
après
passer?
tout, on a tué Watu, on a tué le tribunal vivant.
Voilà, donc tout le monde meurt et c'est mal barré pour l'univers Marvel. Donc en tout cas,
Marvel
c'est
m'a tué, ouais.
en tout cas, c'est bien écrit, c'est très rythmé, on va de choc cosmique en choc cosmique et voilà, j'ai passé un bon moment et c'est un bail.
Et pour les TP de la semaine, on va rester sur les events. On parlait de Secret Wars qui s'approche dans Time Runs Out. Si vous voulez redécouvrir l'ancien event Avengers and X-Men Axis, sorti en hardcover cette semaine au prix de $50 pour les 9 épisodes de la maxi-série, c'est un peu cher.
Ouais, assez, ouais, quand même.
Et oui, Marvel monte les prix de ses comics, Marvel monte les prix de ses TP. c'est ce qu'on disait la semaine dernière hein, déjà.
Non, c'est clair. Ils sont assez chers par rapport à DC en plus. Ouais. Ils sont 5€ plus chers pour des volumes à peu près équivalents, quoi.
Si vous voulez redécouvrir le personnage de Black Panther, le titre de 2005 sur Black Panther qui avait bien marché, un titre qui avait eu très bonne presse. Les 6 premiers épisodes sont repris dans ce nouveau TP, nouveau printing hein, pour ce Black Panther Who is Black Panther. Et vous avez aussi la première apparition de Black Panther dans ce TP, les Fantastic Four 52 et 53 qui datent évidemment des années 60. C'est au prix de $25. On continue avec du Marvel, toujours évidemment, Death of Wolverine, Logan Legacy, la mini-série en 7 parties reprise en un seul MMTP, qui là, celui-ci est pas excessif, est au prix de $18 pour 7 épisodes.
Oui, là c'est pas mal.
Bon, c'est du TP. Si vous voulez découvrir, je pense que ça va sortir en français, mais si vous ne voulez pas attendre.
Ouais, mais c'est prologue effectivement à Wolverines, donc de toute façon ça sera publié effectivement en français. Mais... si vous voulez suivre Wolverines, en tout cas, lisez ça, parce que c'est quand même pas mal pour comprendre les tenants et les aboutissants de la série Hebdo.
L'annual de Thor vous a plu, vous voulez plus de Thor cette semaine, et bien Thor Epic Collection, volume 4, je crois, cette semaine, qui sort, puisque rappelez-vous, hein, ils sortent avec les volumes un petit peu dans le désordre, mais ce sont des arcs complets, ce qui permet de pas avoir toujours réimprimé les premiers numéros au début de la collection, ou devoir attendre 7, 8, 9 ans avant d'avoir la fin. Vous avez des arcs comme ça. Là, ça s'appelle donc To Wake Man Gog, ça vaut $35 et ça comprend les Thor 154 à 174.
Oui, donc 20 épisodes quand même.
Ouais, 20 épisodes à l'intérieur. On a de la bataille contre Galactus et Ego. On a le retour de Him, celui qui deviendra par la suite Adam Warlock. On a les Warriors 3, on a tout ça. Voilà, c'est du Thor par Stan Lee et Jack Kirby. Du vieux, quoi.
Du vieux, mais du bon.
Enfin, Dark Tower, Drawing of Three Prisoners, c'est la dernière mini-série en date hein, sur Dark Tower, toujours écrite par Peter David avec des dessins de Firth cette fois-ci, je me rappelle plus son prénom, Colin je crois, ou à moins que ce soit l'acteur, Colin Firth peut-être, je suis en train de confondre, enfin c'est Firth en tout cas son nom, bref, voilà, c'est au prix de $20, quelque chose qui fera plaisir à Nono donc.
Oui, tout à fait.
Allez, on va passer à notre partie indé. Maintenant, on démarre avec du Vertigo, grosse sortie, hein, puisque DC l'annonçait dans tous ses comics la semaine dernière. On avait tout dans tous les comics DC ce preview de Suiciders. Bruno, tu as lu ce premier numéro, qu'en as-tu pensé ?
Tout à fait. Donc, Liber Mero, qui est au scénario et au dessin, pour un titre graphiquement magnifique. C'est du très bon Liber Mero. J'ai rien à dire là-dessus.
C'est hyper propre.
Ouais, c'est hyper propre.
Pourra-t-il tenir la cadence mensuellement ?
Voilà, ça va être la grande question. Alors, Suiciders, c'est un titre qui se passe 30 ans après le grand séisme qui a ravagé Los Angeles et qui, à la suite de ce grand séisme, il y a eu des reconstructions et il y a eu surtout une division de la ville entre New Angeles et Lost Angeles. Alors côté New Angeles, on a plutôt les personnes friquées, on a le monde du showbiz, on a les nantis, et côté Lost Angeles, on a tous les gens qui ont été laissés pour compte et qui se retrouvent un peu à vivre dans une sorte de bidonville. Il y a un grand mur qui a été construit pour séparer les deux parties de ville, et il y a des soldats qui sont postés pour empêcher justement les gens de Lost Angeles à passer et arriver dans New Angeles. La journée à laquelle se passe ce comics, c'est une journée dans laquelle il y aura un tournoi de Suiciders qui a lieu dans le grand stade de la ville de New Angeles. Et les Suiciders, en fait, c'est des sortes de gladiateurs modernes qui vont s'affronter avec des armures, des améliorations physiques jusqu'à la mort. Et on va suivre surtout dans ce numéro un des personnages qui est le grand champion de la ville de New Angeles. Qui a un tatouage d'ange et qui se fait appeler The Saint. Il va se battre contre le Reaper et donc on a droit à une baston assez sanglante. Et en parallèle, on va découvrir un groupe de réfugiés, enfin de gens de Los Angeles qui essayent de passer de façon clandestine de l'autre côté dans la ville des nantis. Et on va découvrir un groupe de passeurs. Donc il y a deux petites intrigues qui se passent en parallèle. Ça nous présente plusieurs personnages. sans doute un des passeurs qui sera un des personnages clés peut-être de la mini-série, mais on peut pas trop le dire à la fin de ce numéro. Et bah, surtout ce fameux Saint qui est quand même assez charismatique et assez balèze. C'est un univers qui a l'air assez riche, qui est bien détaillé. On sent
Pas assez.
qui est bien, ouais voilà, mais qui manque en substance au niveau de l'intrigue, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui sont placés, mais
Autant en termes d'intrigue que d'univers, je trouve. Enfin, pour moi, la phase d'exposition est loin d'être complète.
après c'est
Il nous
ce qu'on
manque
dit.
trop de clés pour arriver
Ouais.
à comprendre les enjeux de ce monde-là. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un monde qui est basé que sur les apparences, puisque dans ce fameux New Angeles, monnaie courante est d'avoir 3 ou 4 modifications physiques, c'est la moyenne, de se rendre plus beau, plus fort, que ce soit avec des prothèses ou simplement de la chirurgie esthétique.
Il est vachement fait référence effectivement au chirurgien esthétique à plusieurs fois, à plusieurs moments dans le comics.
Preuve en est avec justement ces fameux gens de Los Angeles qui vont essayer de passer la frontière, enfin ce mur hein, qui a été érigé, à qui il manque 2 doigts.
Ouais, mais qui du
Ce
coup
qui est une aberration pour les
Exactement.
gens de l'autre mur. C'est véritablement, enfin, je sais pas, c'est comme si on voyait arriver en plein centre-ville quelqu'un qui avait la peste, quoi.
En tout cas, c'est un univers très très violent, peu extrême. Enfin, ça m'a fait penser moi au manga Gunm, toute la partie Rollerball,
Ah oui.
où on voyait Gunm justement faire des combats comme ça sur des rollers avec des gens augmentés et compagnie. Et
Bah,
ça
le
m'a fait
Saint a
vachement penser à
quasiment
ça.
une armure de Robocop en plus.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est quand même assez stylé, c'est super stylé en fait. Mais voilà, mais il nous manque quelque chose au niveau de l'intrigue. Ça aurait mérité un numéro double, un peu comme le fait Image souvent pour ses numéros 1. Là, c'est un peu court, on est un peu sur notre fin, quoi.
Bah, le problème, c'est, enfin, voilà, on vous allez voir avec la fin du premier épisode que, bah, dans les personnages qu'on présente, déjà, il reste plus grand monde.
Oui.
Donc, super. Et deuxièmement, où est-ce que ça va? Quel est l'intérêt de cette histoire? Enfin, vers quoi on va nous amener? Parce que, enfin, si c'est juste descriptif, c'est raté, parce qu'il nous manque des clés.
Bah
Et
déjà, il nous manque une clé, c'est une des clés qui est sur la couverture, c'est un personnage qui est en premier plan et qu'on voit pas dans le premier numéro.
avec ses gants de boxe là,
Voilà, c'est ça. Donc sans doute un perso qui apparaîtra dans l'épisode 2,
m'étonnerait
mais
pas que ce soit le fameux passeur, moi, mais bon.
ouais, peut-être, mais je sais pas.
Qui est
Voilà.
complètement masqué, que l'on ne voit pas et qui a l'air de bien s'y connaître. M'étonnerait pas que ce soit lui. Mais c'est une totale hypothèse.
Ouais. Bon après ça reste quand même une super, enfin un bon moment de lecture. Peut-être un goût de pas assez,
Un goût trop peu, ouais, effectivement.
mais c'est magnifique, hein.
Ah,
Graphiquement,
c'est
c'est
magnifique,
super.
on ira voir la suite, mais c'est vrai que c'est ce que je te disais juste avant l'émission, cette nouvelle façon d'écrire des comics où il faut attendre d'avoir un arc complet pour avoir l'équivalent des 20 premières minutes d'un film qui est simplement la phase d'exposition, ça devient casse-couille. Dans les années 80, vous écrivez un comic numéro 1, vous aviez les enjeux de l'univers, vous saviez à peu près où vous alliez, et vous saviez tout de suite si ça vous intéressait ou pas. Là, avec un numéro 1 qu'on a payé 3 ou 4 dollars, on ne sait pas ce vers quoi on va. Et on ne sait pas si on a envie de continuer ou pas. Et c'est franchement casse-couille. Ça devient désagréable de ne pas savoir à la fin du numéro 1 si la série nous intéresse ou la série ne nous intéresse pas. Dans son thème,
Ouais,
dans ce vers quoi l'histoire va, quoi. Bon, là, avec Spider-Gwen, moi, j'ai été... Voilà, là, je l'ai su. Mais avec Suiciders, j'irai voir la suite, évidemment. Parce que ça m'a intrigué, mais je ne sais pas vers quoi ça va.
Bah, moi
Et c'est
aussi, enfin,
problématique.
moi
C'est cette écriture en TPB qui est problématique.
je suis assez d'accord avec toi, mais c'est quand même, c'est une bonne lecture et c'est un bail et
Oui, c'est
j'irai
un
voir la
bail.
suite.
C'est un bail. Effectivement, c'est un gros bail. C'est tellement beau.
Ouais,
Tellement
c'est
beau.
ça.
Continuons avec Rasputin numéro 5, cette série que je ne comprends toujours pas, mais que j'aime lire.
C'est la fin du premier arc, c'est ça?
Ah oui, c'est la
Je
fin du
crois.
premier arc, et puis cette révélation, puisque rappelez-vous, Rasputin, hein, c'est l'histoire du Rasputin, le moine fou, hein, ce mec qui a des pouvoirs
Rasputin.
qui justement permettent de guérir. Il sait quand il va mourir, c'est ce qu'on voyait dès le premier épisode,
Oui.
il sait qu'il va crever, tué par ses amis, etc. Et on voit un petit peu le cheminement jusqu'à ça. Mais on se dit, mais pourquoi? Mais en même temps, c'est tellement beau. J'ai pas donné les crédits, pardon, excusez-moi. Écrit par Alex Gratian et surtout dessiné par Riley Rosmo. Et c'est tellement beau. Et Riley Rosmo nous fait de telles planches. Le problème de la série reste qu'on a beaucoup de planches qui sont tellement belles, mais sans texte, que ça se lit très vite. Mais on y revient parce que c'est beau, parce que c'est captivant, alors qu'en fait, si on est totalement honnête, il se passe pas grand-chose. Même rien du tout, puisqu'on sait déjà dès le premier épisode qu'il va crever, de toute façon.
Et est-ce qu'il continue à utiliser, je me rappelle du premier numéro, où on avait parfois des représentations sous forme d'icônes sur les... Il y avait des petits dessins dans les bulles pour représenter...
Non, pas du tout.
On ne l'a pas revu.
Non, on ne l'a pas revu. Par contre, il est toujours accompagné de ses fantômes, puisque on le sait maintenant, quand il sauve des personnes, ça a été révélé dans les précédents numéros, quand il sauve des personnes, il garde en lui une espèce de partie d'eux-mêmes, un peu comme Rogue garde, quand elle a touché quelqu'un,
d'accord,
une partie de la psyché. Et il est accompagné par ses fantômes. Alors là, il est sur un champ de bataille, on est au début de la première guerre mondiale. Il est sur un champ de bataille, on veut le forcer à essayer de sauver les blessés, il sait très bien que s'il le fait, il va être pas bien. Mais de toute façon, en même temps, il sait quand il va mourir, donc il sait que ce sera pas là. Et puis un événement survient, qui change la donne, et surtout, cette fin absolument ouf, qui n'est pas la fin du comic, mais qui est juste ce qui se passe après. Ce qu'on nous annonce pour le prochain arc, qui arrivera en juin, s'appelle The Rise of Rasputin.
Et
c'est
intriguant.
C'est la route pour la Maison Blanche.
What?
Oui, what? Oui, on voit Rasputin dans une limousine, à l'époque moderne. Et
ah
alors
ouais.
Là, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller lire ça, parce que je veux voir, quoi.
Toujours la même équipe créative derrière.
Toujours la même équipe, toujours la même équipe créative, apparemment.
Okay.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que au mois d'avril, il y a déjà la pub pour le premier TP, qui nous dit que ça va contenir la première moitié de cette série. Donc, vraisemblablement, le prochain arc en 5 sera la suite et fin de la série.
Ok.
Mais putain, mais ce truc qui finit où, enfin, tu te dis oui, mais de toute façon, bon, il meurt pas là, alors qu'il se passe un truc qui change un peu la donne, et puis d'un seul coup, tu prends ça en pleine gueule où tu te dis putain, mais Rasputin à l'époque moderne qui va essayer peut-être de conquérir la Maison Blanche, mais je veux ça tout de suite, je veux pas attendre le mois de juin, bordel, je veux pas.
Ça peut être cool, ouais, c'est vrai.
C'est génial, cette série, il y a presque rien dedans, mais ça reste génial. Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'aime ça alors qu'il y a rien.
Après c'est aussi un art de nous faire une histoire sans justement énormément de bulles, tout en continuant à attirer notre curiosité et compagnie. C'est du talent même de scénariste. Hein. C'est
mais
pas
parce
qu'il y a pas beaucoup de texte que.
On le sait depuis le départ. Le mec va crever tué par ses amis. C'est dit dès le premier épisode quoi.
Non c'est.
Et pourtant tu vas suivre son cheminement.
Bon, faut que je rattrape, parce que j'avais commencé, j'avais acheté les premiers, faut que je lise la suite.
En parlant de choses que l'on sait qui vont arriver, comme Darth Vader, ce qui m'a pas allé faire lire le 2 cette semaine, c'est notamment le fait que ça se passe entre l'épisode 3 et 4. En regardant le résumé, le mec est encore en train de se demander, mais qui veut traquer cette espèce de pilote qui a détruit la Death Star. Je veux dire, on a vu les films, on sait que c'est son fils.
Oui.
On a envie de voir des choses qu'on connaît pas. Faites-nous des choses qui pourraient faire évoluer le personnage. Pas des choses, on sait qu'ils vont arriver, mais dans le film. Donc, ils ne pourront pas être dites là. Enfin,
Là, t'as été surpris, donc ça, c'est une bonne chose.
Et pourtant, là, finalement, c'est la même situation. Là, dès le premier épisode, on sait qu'il va mourir, quand il va mourir, comment il va mourir, et pourtant, on suit son histoire. Je sais pas, là, ça marche. Dans Darth Vader, pour moi, ça me parle moins. Alors, les goûts et les couleurs, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'adore cette série, c'est un bail. Petite pause, donc, jusqu'au mois de juin, et retour dans The Rise of Rasputin. J'ai hâte de le lire, putain. Passons à la troisième et dernière review indé de la semaine. C'est une mini chez Boom en 4, Bruno. Ça s'appelle Curb Stomp.
Oui, c'est écrit par Ryan Ferrier avec des dessins de Devaki Neogi. Et une superbe couverture de Tula Lotte qui m'a fait justement choisir ce comics aujourd'hui. En général, je suis un fan des productions Boom. Là, ça reste vraiment une déception, ce numéro. Je me suis un peu fait chier. Le pitch, c'est un groupe de filles qui gère en fait un quartier autour d'une grande ville des États-Unis. C'est leur petite ville, voilà, sur lequel ils règnent un petit peu pour empêcher le crime, des choses comme ça. Enfin, c'est quand même un peu des loubardes, quoi. Mais elles ont l'air d'avoir un bon fond. Et elles vont se retrouver mêlées à une lutte de territoire avec les deux autres, justement, petites villes qui sont proches de là où elles habitent, qui essayent de les attaquer avec d'autres gangs, voilà, de mecs qui essayent de prendre possession du territoire. Il y a des gangs de vendeurs d'armes et des vendeurs de drogue. On a le maire de la grande mégalopole aussi qui a l'air d'être impliqué dans des choses assez louches. Mais franchement, c'est bof, quoi. Enfin, les filles, elles sont bien sympas. Elles ont toutes un caractère assez différent. Il y a la nana un peu roller derby. Il y a la loubarde qui fait des tags. Il y a la mère de famille. Enfin, c'est sympa, mais c'est tellement peu original, et puis surtout l'intrigue, ça part un petit peu là en what the fuck. Ils essayent de leur attribuer un crime qu'elles ont pas commis, mais ça tient pas du tout. Enfin, je trouve ça assez mal écrit. Et puis c'est pas très très beau en fait les intérieurs. Autant la couverture est magnifique, voilà, mais les dessins, ça, c'est bof. Donc grosse déception, j'irai pas voir la suite et je le conseille pas. Donc pour moi c'est un pass ce numéro.
On va finir avec les TP indés pour notre partie indé avant d'enchaîner avec la partie DC. Les TP indés de la semaine, eh bien c'est encore du boom hein, parce que je les prends dans l'ordre alphabétique, hein, je me fais pas chier parce que je suis une grosse feignasse et tout. The Returning, une série que tu avais aimée je crois, Bruno.
Oui, c'était assez original effectivement.
Qui donc sort en TP.
Mini-série.
Et voilà, c'est sorti cette semaine, c'est au prix de $15, avec un scénario de Jason Starr et des dessins d'Andrea Muti. On continue avec chez Dynamite, Art of the Boys Complete Covers. Voilà, toutes les covers réunies dans ce bouquin, c'est un artbook évidemment, hein, c'est pas un TP de comics. Toutes les covers et des variantes de covers faites pour la série The Boys, cette série de Garth Ennis. Avec Darick Robertson notamment au dessin, mais on aura des covers aussi à l'intérieur des guest artistes hein, comme Jim Lee, Dave Gibbons, Howard Chaykin, etc., etc. Ça vaut $40. Hein. C'est un gros hardcover. Toujours chez Dynamite, si vous aimez l'univers Chaos ancien, Chaos Comics, hein, donc Evil Ernie, Purgatory, Chastity, eh bien voilà, le 1 TP qui va reprendre justement cette mini-série Chaos qui avait été écrite par Tim Seeley, notamment avec des dessins de Mirka Andolfo, c'est au prix de $20. Chez IDW, la mini-série Judge Dredd Anderson Psy Division est sortie en TP cette semaine au prix de $18, scénarisée par Matt Smith avec des dessins de Carl Critchlow. Chez Image maintenant, c'est la sortie de Chou, si vous ne voulez pas attendre la sortie VF. La sortie de Chou, le 9e volume qui s'appelle Chicken Tenders, c'est au prix de $15, toujours pas très cher pour cet épée, avec l'épisode 41 à 45, plus le one-shot Chou Warrior Chicken Poyo.
Ah, c'est bon ça.
Toujours chez Image, le premier TP de The Fade Out, la nouvelle série d'Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est au prix de $15, très très bonne série sur...
Je crois qu'ils ont modifié, je crois qu'il est à $10.
Ah, il est à $10, oui.
Ouais, il est passé à $10.
Ça m'étonnait qu'il soit aussi cher, mais en même temps... Bon.
Il y a les 4 premiers épisodes et ça a été modifié, effectivement, il est à $10.
Alors, c'est un monde noir, on est dans les années 50, et puis voilà, c'est une histoire de crime qui se passe à Hollywood. Bref, c'est du tout bon, Ed Brubaker, Sean Phillips, c'est juste magnifique. Un énorme compendium est sorti cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, cette semaine chez Image. J'ai du mal. Chez Image, c'est du J. Michael Straczynski avec des dessins de Brent Eric Anderson.
Ah,
vous reconnaissez ce que c'est?
Rising Stars.
C'est Rising Stars, en effet Rising Stars, qui est collecté en version complète, un compendium, au prix de $70, les 24 épisodes de la série, le 0, le 1,5, à l'époque où il y avait encore Wizard qui faisait ses 1,5. Rappelez-vous. Et puis le Rising Star Prélude et les one-shots Rising Star Bright, Rising Star Voices of the Dead et Rising Stars Untouchable, qui ne sont pas des one-shots, pardon, mais des mini-séries. Excusez-moi. La classe.
Oui, oui, non, c'était un titre qui était en rupture et effectivement, c'est cool qu'ils le ressortent.
Image encore, parce qu'il y a énormément de produits Image en TP cette semaine. Sex Criminals, deuxième TP, Two Worlds, One Cop.
Oui,
bon. Le jeu de mots.
Oui, ouais. Bon, ceux qui connaissent la vidéo.
Voilà.
Ça leur rappellera quelque chose.
On ne vous dira pas, au cas où il y aurait des enfants qui écoutent et qui auraient tapé ça sur Internet.
C'est pas exactement ça qu'il faut taper, mais...
Oui, voilà, mais justement, on ne va pas leur dire. Ce deuxième volume, toujours écrit par Matt Fraction avec des dessins de Chip Zdarsky, c'est au prix de $15. Enfin, dernier TP Image de la semaine, 0, troisième TP. Tenderness of Wolves, c'est le nom de cette TP, série d'Alex Scott, avec les épisodes 11 à 14 au prix de $15. 4 épisodes seulement, mais il y a beaucoup à lire sur cette série.
Ouais, c'est une super série et graphiquement, c'est un coup de poing dans la gueule et c'est le cas de le dire pour ce numéro.
Et dernier TP, indé de la semaine, c'est du Valiant, c'est Quantum et Woody en version deluxe hardcover, série de James Asmus avec des dessins de Tom Fowler notamment. C'est au prix de $40, c'est une édition...
Oui, mais c'est très gros, hein. C'est 350 pages. Et
ça contient les 12 épisodes de la série Quantum and Woody, ainsi que le one-shot Quantum and Woody The Goat, numéro 0. Voilà.
Ouais, très beau recueil.
On a aussi des pages de trucs spéciaux, des bonus, des croquis préparatoires. Bref, très très belle édition, édition de luxe, hein, comme son nom l'indique. On va maintenant passer à notre partie d'essai et Bunny a retrouvé le net, ce qui fait qu'on a fait une petite coupure dans cette émission pour pouvoir l'accueillir avec nous. Bonsoir Mr. René Bunny.
Bonsoir.
Content, hein, c'est les reviews de Spider-Gwen, tu voulais pas participer en fait.
Exactement, exactement. J'étais tellement furieux de lire ça, d'avoir perdu. Bah, c'est quelques minutes que je ne pourrais jamais retrouver de toute ma vie, hein, précisément.
Voilà.
Ces minutes-là, c'est impossible, quoi. Voilà, donc bon, quelle perte de temps.
Merci qui ? Merci Marvel. On va passer donc à notre partie d'essai. Et justement, tu vas nous parler du Batman de cette semaine, le Batman 39.
Non, allez, je vais vous parler de Spider-Gwen quand même. Non, j'ai le troll. Batman 39 par Scott Snyder, Greg Capullo, vous connaissez la formule.
Si j'étais un troll, je dirais que c'est du même niveau.
Et Danny Mickey à l'ancrage. Alors justement, quand même pas mal de choses à dire sur ce numéro. Premièrement, rappelez-vous le cliffhanger de l'autre fois où Batman, là on peut le dire, hein, ça fait un mois que c'est passé. Batman partait à la rencontre donc de la cour des hiboux pour leur demander leur aide. Et je sais pas pourquoi je prends cette espèce d'accent pour leur demander leur aide. Moi je me disais que ils allaient servir à quelque chose. Et en fait c'est assez drôle, ils ne servent à rien. Je comprends même pas pourquoi Snyder finalement. On a l'impression que Snyder est parti dans une direction avec ce scénario. Et finalement il s'est dit oh puis non. Et puis alors, on comprend toujours pas, moi j'ai toujours pas compris en un mois comment Batman les a retrouvés, sachant que, souvenez-vous, après la cour des hiboux, ils avaient disparu, Batman ne les retrouvait pas.
Ah bah c'est le goddamn Batman, hein.
Et là, d'un seul coup, ils apparaissent comme ça,
Ça c'est expliqué quand même. Enfin justement, ils disent, il y a Batman qui arrive et il y a la cour des hiboux qui fait « Oh, tu ne t'étais même pas rendu compte que nous étions revenus dans la ville ?» Et puis il y a Batman qui fait « Non mais vous êtes cons, ça fait longtemps que je sais que vous êtes là, c'est juste que là j'ai besoin de vous maintenant. » Et il va les voir.
Ouais, on l'a pas dit au lecteur simplement, parce que faut les laisser dans l'ignorance. Ça sent vraiment Snyder qui s'est dit « Tiens, je vais les réintroduire dans l'histoire. » Le truc, c'est que en plein milieu de ce numéro, on se rend compte qu'il ne sert à rien et Batman se barre, voilà.
C'est pas dit qu'il réapparaisse pas pour la fin. C'est pas dit.
Oui, d'accord, mais voilà.
Non, référencé Frank Miller, après avoir référencé tout le monde, hein, Monsieur maintenant s'auto-référence. C'est simple, c'est juste pour ça.
Bah je sais pas, enfin de toute façon, en même temps c'est logique qu'il en reparle, hein, puisqu'on l'attendait tous au tournant, on se disait, mais quand est-ce qu'il va nous reparler de cette cour des hiboux ?
Moi j'ai trouvé ça assez logique quand même, parce qu'il y a un lien direct avec la cour des hiboux, c'est-à-dire que il suppose que le produit qui est utilisé par le Joker, c'est un produit qui est utilisé par la cour des hiboux justement pour pouvoir garder les talons vivants et immortels, et effectivement ça découle de cette fameuse formule, donc il avait besoin d'eux pour avoir des informations là-dessus. Ils sont pas très ils ont pas envie de jouer avec Batman à ce jeu-là, mais après, Batman en fait rencontre un personnage et il lui pose une question qui reste en suspens et qui aura peut-être des conséquences dans le prochain numéro. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un intérêt de les faire revenir et c'est assez logique et assez bien amené au final.
Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse rupture en plein milieu de cet épisode et qu'au final, il ne servait un peu à rien. quitte à les ramener, bah, il aurait peut-être fallu les ramener un peu plus tard pour le final, quoi, s'ils peuvent faire quelque chose. Mais en tout cas, ensuite, on part sur complètement autre chose. Batman va du coup monter une espèce d'équipe. Alors, je vais pas révéler de quoi il retourne, mais une espèce d'équipe, voilà, pour sauver Gotham. Alors bon, évidemment, il est avec tous ses Robins, mais pas que. Voilà. Et je vous laisse découvrir ce que c'est que cette équipe. J'ai trouvé ça vraiment. Alors là, solution de facilité extrême. Non, pas la Justice League, mais vraiment une solution de facilité, tu sais, genre. Bon bah voilà, ça fait bien les choses. Surtout que tous ces personnages arrivent. Enfin, sont là, sont disponibles, quoi, pour aider, hein, voilà, à l'instant T. Certains, je me demandais même s'ils étaient pas morts ou en tout cas disparus. Bon, bah là, ils répondent présents. Et puis, il y a surtout, alors là, les scènes les pires, au fait, de ce numéro, c'est les scènes avec le Joker. Parce qu'on voit le Joker, alors le Joker a encore changé de look. Et le Joker, il est encore dans son rôle, tu sais, de mastermind, de manipulateur. Le mec a calculé, il a 15 années d'avance sur ses adversaires, hein, sur Batman. On a l'impression qu'il aurait eu besoin de 15 vies pour planifier tout ce qu'il fait dans ce numéro, seulement dans ce numéro d'ailleurs, parce que bon, y a tout le reste qui va autour aussi. Mais voilà, c'est le Joker, c'est devenu un super dieu. Et alors, ce qui me dérange, je peux pas ne pas en parler tout de suite, mais dans le backup, on te fait comprendre que peut-être, effectivement, tout ce qu'on t'a raconté sur le Joker dans les numéros précédents, c'était peut-être du flan, et peut-être qu'il n'a rien de mystique, de magique, de démoniaque, ce Joker, et peut-être qu'effectivement, c'est bien un homme normal. Et on t'explique comment cette manipulation et cette espèce de mythe autour du Joker se serait propagée, et d'où ça tiendrait son origine. Le problème, c'est que si effectivement au final Snyder rétropédale et dit et nous dit que oui bah finalement le Joker c'est plutôt un gars normal, ou bien alors il nous laisse dans le doute, comment expliquer tout ce qu'arrive à faire le Joker dans ses numéros? C'est ça devient ridicule, quoi. Moi, si Snyder ne nous dit pas à la fin, oui, effectivement, il a passé un pacte avec une entité démoniaque, ou il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui explique tout ça. Ça n'a aucun sens. C'est impossible que quelqu'un comme le Joker fasse tout ce qu'il fait dans ce numéro. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment, alors là, c'est grotesque, quoi. Vraiment, c'est la blague est bien lourde et bien grasse et franchement, elle passe pas, quoi. Donc bon. Et encore ce changement de look, quoi, pour le Joker. Encore un changement de look. J'ai carrément envie de le dire un petit peu, quoi. C'est le Joker double face, voilà. Maintenant, il a adopté le look double face, le Joker.
Il change pas vraiment de look, hein. C'est la suite de ce qu'il était dans le précédent numéro. Enfin, voilà, mais je suis pas d'accord avec toi, franchement, sur plein de choses. J'avoue que j'étais quand même assez déçu par les numéros précédents, mais celui-là m'a vraiment captivé. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a toute une partie effectivement qui concerne le Joker et qui prend racine dans pas mal de choses, donc des choses qui sont passées avant dans Death of the Family par exemple, avec un retour du Joker dans une zone dans laquelle il était déjà allé.
On sait très bien, alors là, il suffit que tu dis ça, on sait très bien de quoi il s'agit.
Qui amène
Qui
amène à une scène assez trash de quelque chose qu'on espérait presque pendant Death of the Family, mais qui n'avait pas eu lieu, et là qui finalement a lieu. Donc chose assez choquante et que j'ai trouvé bien bien faite. Et par la suite, on a effectivement le Joker qui tend un piège à Batman. Dans ce numéro, je trouve qu'on a moins ce côté Joker ultra puissant. Voilà, c'est le Joker manipulateur. Le fait de faire planer
t'as
le
vu
doute,
ce qu'il arrive à faire. T'as vu ce qu'il arrive à mettre en place en plein milieu du numéro là.
Eh ben c'est Batman de Tim Burton. C'est encore un clin d'œil de Snyder au cinéma avec.
Mais non mais d'accord, mais je m'en fous que ce soit un clin d'œil. C'est juste, c'est n'importe quoi.
Bah, attends, c'est pas plus n'importe quoi que ce qu'on peut lire dans les comics DC ou Marvel quand il y a un vilain qui fait un plan, quoi.
Le Joker, ça a toujours été un street level character. Là, Snyder en a fait un mec ultra puissant qui a 15 coups d'avance sur un gars
comme
Batman.
Ça lui est déjà arrivé au Joker de faire des pactes avec des personnages magiques, choses comme ça, effectivement, t'en as parlé.
Ah oui.
Et donc, il a quand même déjà fait des choses de ouf.
Empereur Joker.
Oui. Oui, d'accord. Mais là, justement, il nous est plus ou moins teasé que tout ce qu'on nous a laissé entendre dans les numéros précédents, c'était de la manipulation et qu'au fait, c'est un gars normal.
C'est pas ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit, c'est que le Joker, l'intérêt, c'est que ses origines, on les connaît pas. Et qu'en fait, comme ça a été refait de pas mal dans les comics, aussi dans les films, on se rappelle du Dark Knight de Nolan, où il jouait pas mal avec le Joker, qui racontait à chaque fois une histoire différente par rapport à son passé. Là, il fait exactement la même chose. Dans le backup, effectivement, il y a un groupe de prisonniers d'Arkham qui ont chacun une histoire sur le Joker. Oui. Et là, on a une nouvelle...
Dans le Dark Knight, le Joker, il faisait des trucs, plausibles, réalistes. Là, c'est juste pas possible d'organiser autant de choses en si peu de temps.
Si, regarde le mec de Saw.
Oui, voilà, c'est ça. Ça me fait penser à Saw, Jigsaw de Saw, ou bien alors ça me fait penser à Nemesis aussi.
Après,
le
Joker, là, ça fait depuis Death of the Family qu'il prépare son plan, donc ça fait quand même plusieurs mois. Il a eu le temps de.
Oh, la bonne heure.
Il a eu le temps de s'infiltrer dans Arkham pendant plus d'un an.
Attends, le Joker
depuis,
là.
Depuis Detective Comics 1, depuis qu'il s'est arraché le visage, il prévoyait déjà Death of the Family. Donc,
Ouais, mais après, il est reparti la queue entre la jambe, et entre temps, il y a eu Batman Eternal, c'est-à-dire il y a un an d'intrigue. Qui amène jusqu'à Endgame, et pendant Endgame, c'est là où il y a justement le Joker qui balance son plan. Et effectivement, on nous met le doute sur le côté mystique du personnage, sur son côté peut-être immortel, sur le fait qu'il a peut-être recours à des substances qui font qu'il a envie depuis plus de 400 ans, chose qui effectivement peut faire débat, mais chose qui encore n'a pas été confirmée. On le verra ça à la fin de Endgame. Mais voilà, moi j'apprécie le fait qu'il nous fasse douter sur ses origines et qu'encore dans ce backup, là on a un côté où en fait tout ça c'est du flan et qu'il est peut-être humain, mais même à la fin du numéro, on se dit ça se trouve ça aussi c'est du flan. Donc moi j'aime bien qu'il joue avec ça.
Parlons du backup, est-ce que l'un de vous peut donner les crédits du backup?
Oui, c'est James Tynion IV et Dustin Nguyen au dessin. Voilà. Et c'est plutôt sympa d'ailleurs ce backup. J'ai bien aimé la conclusion, est assez tragique, mais c'était pas mal. Et voilà, moi j'ai bien aimé ce numéro, c'était quand même assez cool. Et maintenant j'ai juste un peu peur de comment il va conclure, parce que j'ai toujours été déçu par les conclusions arcs de Snyder.
À mon avis, dans le prochain, il n'y aura pas de backup, parce que là, ils ont conclu la série de backup avec ça. Donc, il n'y aura pas de backup et on n'aura pas plus de réponses. Mais c'est-à-dire qu'on va être toujours dans le doute.
Ça, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, on jugera au prochain numéro. Mais en tout cas, là, moi, je trouve que c'était la montée en puissance dans ce numéro. Ça relève un peu ce qui s'est passé avant. Et voilà, après, on aura peut-être un pétard mouillé. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec ce numéro.
Concrètement, pour faire la comparaison, c'est comme dans 24 heures chrono, quand on se marrait sur cette série, parce que il y avait une saison où il y avait un terroriste qui, en une journée,
Marwan.
Était capable de, pardon?
C'était...
Oui, par exemple, oui, bah, exactement, Marwan dans la saison 4,
qui en une journée s'échappait 10 fois.
Qui s'échappait 10 fois, qui faisait péter des centrales nucléaires, qui défonçait Air Force One et qui envoyait un missile, enfin bref, etc., etc. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est le Joker, il a tout prévu, mais en plus, il est tout seul. Encore dans 24, les terroristes, c'est toute une armée de gars. Là, le mec est tout seul, et c'est un dieu vivant, quoi. C'est vraiment un dieu vivant. Et moi, ça me dérange. Franchement, je trouve ça pas crédible du tout. Et j'ai l'impression qu'ils vont nous laisser comme ça dans le doute. Enfin, que Snyder va nous laisser dans le doute. Et puis alors, le coup de théâtre à la Axis, merci, quoi. Ça m'a achevé, hein, franchement. Parce que concrètement, c'est ça, hein, c'est Axis, quoi.
On verra. Mais moi, j'attends vraiment la conclusion de cet arc qui remonte un peu le niveau et effectivement, ça fera peut-être débat à la suite. Mais on sait que Snyder a pas envie d'écrire le Joker après ça. Donc, je suis pas sûr qu'il va laisser quand même la question en suspens. Je pense qu'il y aura une résolution à la fin du prochain numéro.
Ouais, la résolution, il va faire semblant de mourir comme à la fin de Death of the Family.
J'espère que ce sera pas ça. En tout cas. Ce numéro, pour moi, c'est un bail.
Benny ?
Moi, franchement, c'est le numéro qui m'a achevé sur cet arc.
J'ai lâché deux avant toi, moi.
Yeah. Encore une fois, dire impasse, ça aurait pas de sens, parce que quand on est arrivé jusque-là, il faudrait quand même terminer, quoi. Donc, je vais simplement dire check it. Mais à vos risques et périls, honnêtement, ça part dans une direction qui est vachement casse-gueule et qui me plaît pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on n'aura aucune réponse.
Ah là là, à l'écoute de vos reviews, hein, tous les deux, hein, c'est-à-dire ton avis plutôt négatif et ton avis enjoué, Bruno, connaissant tes goûts habituels, comment tu défends Batman, etc., habituellement par rapport à mes goûts à moi, je peux vous dire que j'ai rarement pris une aussi bonne décision que d'arrêter ce titre.
Après, il y a...
Je suis tellement content d'avoir arrêté. Voilà.
J'ai pas mal de critiques hein, quand même sur le titre. Moi, je regrette qu'on ait aucune référence à Damian. Effectivement, il y a des moments où je trouve que c'est complètement over the top.
Non, mais je suis d'accord avec Steve. Hein. C'est la meilleure décision qu'il ait prise de sa vie parce que d'habitude, il prend tellement des décisions
de merde quand on voit par rapport à un podcast et tout. Okay. Décision comics de façon récente, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est d'arrêter. Jusqu'à présent, ouais. Je me forçais à le lire parce que je trouvais que je devais le lire. C'était une grosse sortie. Et il fallait quand même donner son avis. Mais un moment où le sadomasochisme a une limite. Et voilà. Si c'est lire un truc et payer un truc pour gueuler sans arrêt, ça sert à rien, quoi. Il y a un moment, faut arrêter. C'est le conseil que je donne aux gens et autant l'appliquer à soi-même, quoi. Donc, non. Enfin, clairement, moi, je peux plus. Quant à ce que vous disiez tout à l'heure qui me faisait bondir, j'ai coupé mon micro, ça me faisait bondir. Quand tu disais, Bruno, que le Joker préparait son plan depuis au moins un an, puisqu'il y a les événements de Batman Eternal, etc. Je mettrais juste en exergue, donc, le fait qu'apparemment, la série de Monsieur, je me la pète, Scott Snyder, se passe en temps réel. Il se passe un an vraiment, donc depuis qu'il a pris la série, il a dû se passer peut-être 2 à 3 ans de Batman, d'histoire de Batman, et qu'il a eu 4 Robins en 5 ans. Voilà. Regardez ce qui s'est passé depuis le début des New 52 pour Batman, et comparé avec ce qui s'est passé avant que les New 52 commencent, c'est-à-dire sa carrière de, on va dire, 6 ans. Ça tient pas debout. Non, mais
même, il y a un plus gros problème. C'est que si Batman Eternal dure un an, et que donc les épisodes actuels sont un an après, Batman n'est plus du tout raccord avec le reste de tout l'univers des New 52, concrètement. C'est l'homologue de le truc qu'on a chez les Avengers,
là,
chez Batman. The Time Runs Out. Donc ça voudrait dire que quand il croise les autres membres de la Ligue, si c'est dans un an, bah, on sait déjà que Wonder Woman, puisqu'il les a tous croisés au début de
Endgame. Mais là, on arrive à la fin d'Eternal, hein, donc ça raccroche.
Non, mais on sait donc que dans un an de temps comics, Wonder Woman, Superman et tous les membres de la Ligue qui croisent au début d'Endgame sont toujours en vie, bien portants, etc. Ce qui va peut-être pas du tout être le cas, d'ailleurs, dans ce qui est prévu avec Convergence, etc. Donc... Ou placer Convergence,
Endgame,
ou placer
avant Convergence. Hein.
Oui.
Ouais. Mais après, faudra m'expliquer comment tu fais pour faire que Batman Eternal avance les titres Batman d'un an, alors que tous les autres titres n'ont pas avancé concrètement à la même vitesse. Ils n'ont pas avancé d'un an les autres titres. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien, mais après c'est
les problèmes d'édition, les problèmes de continuité.
Ça dépend comment on considère l'histoire. Là, moi, effectivement, toutes les critiques que je fais sur Batman, c'est des critiques de continuité qui me saoulent concernant Damian, concernant des personnages effectivement qui ont des réactions bizarres.
T'as un personnage vendeur où tu sors, allez, sans déconner, 12 séries concernant son univers par mois. Mettez-vous d'accord sur la temporalité des choses, quoi. C'est le minimum. Hein. C'est le travail d'un éditeur, ça. C'est bien beau de lancer des bons projets tels Arkham Manor, tels Gotham Academy. Je dis bons projets parce que ça remporte un succès, etc. Des projets différents. Mais avant de s'occuper de lancer de nouveaux projets, régler les problèmes qu'il y a déjà actuellement. C'est peut-être la base du métier, quoi.
Mais c'est aussi un indice un peu sur ce qu'ils veulent faire. Et ils s'éloignent de plus en plus d'une continuité... précise, c'est donner plus de parole au créateur et moins d'importance à la continuité. Et c'est ce qui nous annonce avec les sorties du mois de juin.
C'est un problème. Si t'as un univers partagé, certain. Si tu veux pas un univers partagé, va faire de l'indé, fais pas chier. C'est tout. Voilà.
Une nouvelle ère pour DC Comics actuellement.
Oui, comme pour Marvel d'ailleurs.
Je trouve que Marvel joue beaucoup plus sur sa continuité que DC. Mais...
On a vu Secret Wars, oui.
Ben justement, Secret Wars, ça naît de la continuité Marvel.
Non, de la sens de continuité Marvel, justement.
Est-ce que, je commence à décrocher un petit peu, mais d'un seul coup, ça m'a réveillé, là. Il y a Bruno qui commence à s'agacer, à s'énerver, à hausser la voix.
Mais je m'agace pas.
Et là,
pas.
Je me suis dit, ouf, il se passe quelque chose!
Je m'agace pas, mais je trouve que, entre les titres Marvel, il y a beaucoup plus de références à ce qui se passe sur les titres de chacun que ce qu'on a chez DC. Après.
Ah, mais je sens que tu t'agaces quand même un petit peu, et voilà. Et qu'on est pas loin du balançage de micro par terre et de aller tous vous faire enculer.
Mais non.
Mais
voilà, là,
c'est pas
clairement,
drôle.
Batman,
c'est drôle.
C'est carte libre à Scott Snyder qui fait ce qu'il veut sur le personnage. Alors, il fait une histoire qui peut être plus ou moins sympa, mais qui est complètement déconnectée de ce que fait Tomasi avec son Batman et Robin, qui est complètement déconnectée de ce que fait Jeff Jones avec son Batman dans la Justice League, et effectivement on s'y perd quand on essaie de rassembler tous les morceaux.
Je suis d'accord avec Bruno, tout de même, c'est vrai que les wagons sont quand même un peu mieux raccrochés chez Marvel que chez DC. Chez DC, c'est simple, on a l'impression que chaque série est dans son univers propre et point barre, quoi. On pourrait avoir 52 univers différents, ça serait pas gênant.
Oui, non, les wagons sont plus raccrochés chez Marvel, enfin maintenant si on met de côté tous les problèmes de voyage dans le temps
bien sûr,
dans toutes les séries,
bien sûr. Mais bien sûr, mais il y a plus de références.
De toute façon, ils vont tout détruire dans 2 mois, donc voilà.
On verra dans les faits ce que ça donne, hein, parce que là, pour le moment, c'est j'y comprends rien de toute façon à ce qu'ils essayent de faire, donc on verra bien.
Ah, y a rien à y comprendre, quoi.
On verra comment ça se goupille.
Pardon. Donc je rappelle vos notes sur ce Batman numéro 39 pour Benny, un check-it par dépit, puisque bah si on est arrivé là, il faut aller quand même pour jusqu'au
ah
bout.
Ah ouais, ouais.
Et
ouais.
Puis pour Bruno, un bail, c'est ça?
Oui. Et si on n'a pas commencé, évidemment, ne commencez pas par ce numéro-là.
Si vous n'avez pas commencé, mettez-vous à Batman et Robin, quoi. Ça sera plus simple.
Non, bah non, mais pas forcément. Mais en tout cas, attendez le TP, quoi. Si vous avez apprécié les autres arcs de Snyder précédents, ben voilà. Bref.
On continue avec Arkham Manor numéro 5, série de Gary Dugan avec des dessins de Sean Crystal, avant-dernier numéro hein, de cette série, puisqu'on le sait maintenant depuis quelques semaines. Elle est prévue en 6, c'est dommage de niquer un si bon concept. C'est con, lancer un truc intéressant et intelligent comme ça, qui sort des sentiers battus pour laisser carte blanche à un mec comme Snyder, c'est vraiment con. En tout cas, ça reste mon avis. On a Batman qui enquête toujours sur ce fameux tueur en série qui sévit dans l'asile d'Arkham, qui est donc maintenant l'asile Wayne, le fameux Arkham Manor, hein, qui est devenu ancien, qui était l'ancien manoir Wayne et qui est maintenant devenu le nouvel asile Arkham suite aux événements de Batman Eternal. Hein, référez-vous-y pour comprendre mieux, et puis référez-vous au début de la série, hein, c'est le cinquième, c'est l'avant-dernier, voilà. Il est toujours à la poursuite de ce tueur en série. À la fin du dernier épisode, il le trouvait, il le rencontrait enfin, et on va assister à un énorme baston entre ce tueur en série et Batman, une baston ultra violente, avec des à coups de je t'écrase la gueule sur des tuyaux de chauffage hyper brûlants, et la façon qu'a le tueur en série de ne pas répondre aux questions de Batman, qui est juste absolument atroce. Batman lui pose des questions, pour ne pas répondre, eh bien il a trouvé un moyen. Voilà, c'est imaginer la pire chose que l'on peut se faire soi-même. Voilà. Ah oui, c'est glauque. C'est glauque et crade. On a franchement atteint un niveau dans le crade là qui est quand même assez fort. Cette série tentait vraiment des choses, quoi. C'est, j'ai rarement vu du Batman aussi violent, honnêtement. À part dans des Elseworlds ou des trucs comme ça, mais je veux dire dans l'univers proper, quoi.
La série continue d'être pas mal, alors.
Ah oui, non, mais moi je trouve ça très bien, Batman continue d'enquêter, puisqu'il a enfin arrêté ce tueur en série, mais il y a quand même un autre problème, c'est que certains en ont profité pour s'échapper, et il en reste quelques-uns, ils sont 4 à s'être échappés, dont Mr. Freeze, dont vous découvrirez le sort dans ce numéro, mais aussi le personnage qu'incarnait Batman, hein, cette espèce de couverture qu'il avait, donc finalement il en reste encore 2 échappés. Et Batman va justement essayer de les traquer. C'est ce qui sera.
J'ai une question parce que de toute façon je suis complètement perdu avec la continuité. Donc Arkham Manor, on est d'accord, ça se passe après Batman Eternal.
Après Batman Eternal 28 ou 29, un truc comme ça, quand l'asile Arkham pète, quoi.
D'accord. Donc avant Endgame.
Mais oui, ouais, puisqu'on ouais, avait ce fameux Joker.
Qui est dans Arkham Manor.
Eric, je sais pas quoi.
Eric Border.
Voilà. Mais alors du coup, j'ai envie de te dire, par exemple, là tu t'interrogeais sur Mr. Freeze. Bon bah, je peux te dire que Mr. Freeze se porte bien.
On a la réponse dans ce numéro. Je laisse la façon de gérer le cas Mister
Freeze.
Non mais
on a la, non mais le problème c'est qu'on a la réponse même dans Endgame du coup.
Oui, mais quelle est la réponse que Batman donne au psychopathe
ouais.
le lapsus. Ouais. Quelle est la réponse que donne Batman concernant le cas Freeze aux dirigeants de Arkham, justement, aller à découvrir dans ce numéro. C'est une réponse qui est très intelligente. On a un Batman qui est beaucoup plus sensé, là, je trouve, écrit par Gary Dugan. Un Batman un peu fou.
Beaucoup plus dans l'esprit détective, de toute façon. Hein.
Dans l'esprit détective.
C'est une espèce de thriller de huis clos, cette série.
Mais on a un Batman qui est lui aussi borderline, quand même, parce que vraiment, cette violence dans le combat est assez... Je vais pas dire que c'est insoutenable, mais enfin, quand même, quoi. Batman, il va vraiment très fort.
Enfin, t'as pleuré, quoi.
Batman s'énerve lui-même. Enfin, on suit son dialogue intérieur et on sent Batman au bord de l'explosion. Et puis, on a en même temps un Batman moins tout blanc, tout noir, quoi. C'est ça qui est intéressant. Gary Dugan nous je trouvais pas le mot que je voulais, mais on a un Batman plus neutre qui. Presque, je tire peut-être un peu, mais croirait presque en la rédemption, quoi. Ce qui est quand même assez surprenant pour le Batman de ces dernières années. Le Batman de ces dernières années, c'est comme un gros connard qui, de toute façon, t'as pas traversé dans les clous, je te fous à Arkham, quoi.
Ouais.
En t'ayant pété la gueule et les jambes en même temps.
Un côté Judge Dredd, quoi.
Il y a un gros côté Judge Dredd sur Batman. D'ailleurs, aussi mention spéciale, l'armure de Batman qui est vraiment différente dans ce numéro. Là, c'est vraiment une armure. T'as l'impression que le mec a des parties métalliques, quoi. Ses bottes et ses avant-bras, c'est du métal, quoi.
Ouais.
Regardez surtout les semelles. Les semelles des bottes de Batman, tu te demandes comment il marche avec ça, hein, mais... Bon voilà, c'est le dessin de Sean Crystal qui est assez efficace dans les scènes d'action. Franchement, j'aime beaucoup cette série, je regrette de l'avoir s'arrêtée. J'aimais bien Gary Dugan sur l'univers de Batman, j'espère qu'il y reviendra. Parce que je pense qu'il a des choses à dire, des choses différentes de ce que l'on peut lire actuellement, et c'est ça qui est intéressant. Sans être une trahison au mythe, n'est-ce pas, Mister Enculé de Snyder ?
Je croyais que t'allais dire, n'est-ce pas, Mister Enculé de Monsieur Onebunny ?
Non, non, mais voilà, enfin, je veux dire, il chie pas sur le mythe, quoi.
Ouais.
Bref, pour moi c'est un bail. C'est un bail ce numéro. Enfin, dernière review d'essai, hein, review d'essai qui aura duré vachement longtemps, la faute à Mister Onebunny, hein, du coup.
Et ouais, je prends mon temps en plus parce que j'ai l'impression que le podcast n'est pas commencé depuis longtemps alors qu'au fait, si.
Voilà, nous on avait fait un bon rythme bien soutenu avec Bruno, c'était cool, ça s'enchaînait bien. Et ben voilà, Bunny arrive, il saccage tout.
Et en plus, t'as deux parties à monter et pas une, donc voilà.
Moi je préfère monter deux parties qu'une seule.
Deux parties.
Soyons gourmands. Non, je plaisante évidemment. Pour ce qui est de toi qui saccage, je voulais dire, parce que monter de partie, oui, c'est toujours plus intéressant. Secret Origin numéro 10, avant que ça dérape de trop, Bruno, est-ce que tu vas nous raconter l'origine de
est-ce que tu nous montres tes parties, Bruno?
Non, je vais vous parler des origines secrètes de Batgirl.
Il va nous parler de la partie de Batgirl.
C'est ça. Donc, c'est cette partie qui m'a vachement intrigué, puisque à la fin du numéro.
Puisqu'il a des couilles.
Du numéro de Batgirl, il nous disait d'aller voir Secret Origins pour en apprendre un peu plus sur la menace actuelle dans la série Batgirl. C'est écrit par Cameron Stewart et Brendan Fletcher, donc les deux scénaristes de la série Batgirl, avec au dessin Irene Co. Et effectivement, ça développe toujours cette intrigue qui concerne une sorte d'entité informatique qui en veut énormément à Batgirl. Alors, est-ce que c'est une oracle en fait qui existe bel et bien dans l'univers New 52 et qu'en fait c'était quelqu'un qui avait pris possession du corps de Batgirl et qui usurpait son identité depuis le début des New 52, ou alors est-ce que c'est plus simplement une entité en fait, parce qu'il y a eu Batgirl lorsqu'elle était handicapée, elle a subi des expériences où en fait ils ont fait un scan de son cerveau et donc qu'en fait peut-être ce scan de son cerveau est devenu conscient et du coup pense que quelqu'un a pris sa place.
Ou est-ce que c'est des prémices de convergence avec une Barbara Gordon d'une autre réalité.
Ça pourrait aussi être ça, effectivement.
Non, mais je pense que convergence, il faut vraiment pas en attendre quelque chose qui va changer. C'est vraiment une pause. Faut vraiment pas attendre que ça change grand chose, quoi.
Ah, mais non, mais justement. Mais peut-être que juste que c'est un élément qu'on va retrouver dans convergence et qui après disparaîtra dans les limbes, hein.
Mais, voilà. Bah, en tout cas, effectivement, on en apprend un petit peu plus là-dessus.
Le cobaye, hein, quand même, hein. Tu me fais beaucoup penser au cobaye, Bruno.
Oui, je pense plus sur ça, en fait. Je pense plus sur, en fait, une intelligence artificielle qui croit être vivante et qui
ouais,
du coup en veut
parce que
à Batgirl.
Ça aurait été une imposteur depuis le début des New 52 quand même, ça fait longtemps pour se manifester, enfin voilà. Ça aura pris du temps.
Exactement.
Quoi. Donc ça semble bizarre.
Mais je pense que là ça aurait gueulé un petit peu en termes de traîtrise. Hein.
Mais par contre je trouve l'idée plutôt bonne de la part de Cameron Stewart et Brandon Fletcher. Sinon après c'est vraiment du Secret Origin, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques pages qui reviennent sur comment elle est devenue Batgirl. On découvre aussi une de ses amies. Concrètement,
Bruno, ça fait penser aussi à la saga du clone, quoi. Genre, je suis l'original et je viens récupérer ma place légitime.
En moins développé, mais un peu ça, effectivement.
C'est les prémices, quoi. Enfin, c'est vraiment au début, ça commence un peu comme ça.
Voilà, mais c'est sympathique, sans plus, on va dire. Par contre, j'ai lu aussi une autre petite histoire dans ce Secret Origin qui est très sympa, qui elle est scénarisée par Christy Marx avec au dessin Stjepan Sejic, qui raconte en fait les origines de Poison Ivy. Et du coup, c'est quand même très très beau. Cégic, hein, c'est en général très réussi. Et
là, Cégic, c'est magique.
Cégic, c'est magique.
Salut Patou, Benny.
Sam serait d'accord avec moi. Et effectivement, une petite histoire sympa qui revient sur les pouvoirs de Poison Ivy. Et c'est assez amusant puisqu'elle s'en prend dans cet épisode à la société Descanto qui produit des plantes génétiquement modifiées qui contamine les champs d'une pauvre agricultrice qui travaille de façon organique. Et donc voilà, on a la grosse critique de Monsanto, pas très subtile, mais c'est assez amusant d'avoir une Poison Ivy qui vient pour s'en prendre directement au PDG de cette grosse société. Voilà, une histoire assez cool. J'ai fait l'impasse par contre sur l'histoire, c'est quand même la Secret Origin de Firestorm, parce que je trouve le personnage super chiant dans les New 52. Mais par contre, c'est magnifique.
Il y a un Firestorm dans les New 52 ?
Oui, il y en a un. Mais par contre, c'est vraiment magnifique. Un artiste qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est Sean.
Sa série n'existe plus.
C'est
par contre.
Sean Chen.
Sean Chen, ouais.
Voilà, que j'aime bien. Et là, c'est vraiment très beau. Les planches sont magnifiques. Mais c'est dommage. Il raconte l'histoire de Firestorm, qui est super chiant.
Pour voilà. Benny, hein, la série avait été lancée au tout départ des New 52. Mais
Fury,
il est actuellement dans Future Zend.
Ah oui, c'est vrai.
Les
parties
chiantes de Future Zend, c'est avec Firestorm.
On a quand même eu 20 numéros hein, de ce Fury of the Firestorm de Nuclear Man.
Voilà. En fait, c'est ça qui est amusant.
Fury
c'est
of the Firestorm.
Dans ce Secret Origins, en fait, en deux pages, il raconte Fury of Firestorm. Donc, t'as pas besoin de lire ça.
20 numéros, deux pages. Bon.
Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais sinon, donc, un numéro de Secret Origins plutôt sympathique, tout particulièrement pour les parties graphiques de la partie Poison Ivy et pour l'histoire de Batgirl. Donc, un gros check-it.
Et bien voilà, c'est tout pour notre partie d'essai. On conclut avec les TP. Restons dans l'univers Batman, avec notamment la sortie du 5e et dernier TP de Batwing, qui s'appelle Into the Dark, avec les épisodes 27 à 34, ainsi que le Future's End, le one-shot, c'est au prix de $17. Bon, pas très cher, en même temps, c'est une série qui se vendait pas beaucoup, mais ils font le dernier TP à pas très cher, c'est pas mal.
Bon, ouais, une série qui avait bien commencé et qui s'était essoufflée en cours de route. Hein.
Avec, il y a eu un changement de...
Oui, voilà, un changement de personne sous le costume, qui secouait un petit peu le mythe batmanien, mais qui n'a absolument aucune incidence. Voilà.
Ça a fait un flop.
Ouais, totalement.
Je vois même pas de quoi
c'était le fils de Lucius Fox qui avait récupéré le costume.
Ah, Batwing! Excusez-moi, à chaque fois je pensais à Nightwing, en fait. Ok, autant pour moi. Oui, donc non, la série s'était même améliorée, alors, excusez-moi.
Ouais. Et nous avons aussi, le reste sortant déjà en français, donc je ne le mentionne pas, hein, comme d'habitude, la sortie de He-Man and the Masters of the Universe. He-Man and the Masters of the Universe, volume 4, voilà. $15 pour ces épisodes 7 à 12, série que tu suis toujours, Bruno ?
J'ai du retard, mais c'est très plaisant, effectivement, de replonger dans l'univers des maîtres de l'univers, par le pouvoir du crâne ancestral.
Série qui est écrite par Dan Abnett avec des dessins de Raphaël Kayanan, notamment. Et de Tom Derenick aussi. Et puis c'est tout. Le reste sortant déjà en français, hein, comme je le dis, on va pas le mentionner, puisque en général, les prix français sont un peu plus intéressants que les prix US. Sachez qu'ils sont sortis, quoi.
Ouais, il y a juste un gros truc, c'est le gros omnibus de Green Lantern, volume 2, qui sort et qui comprend 1000 pages de Green Lantern par Jeff Jones. Effectivement, ça sort déjà en français, mais c'est un bel objet.
Moi, je ne l'ai pas mentionné ici. Hein. Moi, je ne l'ai pas mentionné dans ma liste, en tout cas.
Bah, il me semble que ça sortait cette semaine. Je dis peut-être des bêtises. Alors, du coup, je
On
me
n'en
tais
avait
à
pas
jamais.
déjà parlé la semaine précédente ou il y a 2 semaines.
Je me tais à jamais.
Non, mais c'est
J'ai peut-être.
effectivement.
Je dis des conneries en plus. Je crois que j'ai juste lu ça dans le nouveau previews en fait. Je mélange des choses. J'ai mon esprit qui se mélange. Il est
Je
tard.
suis surpris quand même, personne d'entre nous n'a osé lire le Deathstroke numéro 5 avec ce fameux combat hyper méga violent qu'on nous disait entre Batman contre et Harley Quinn et Deathstroke.
Mais Deathstroke, c'est un truc clairement que je vais lire, je pense, en TP, parce que ça a l'air assez fun quand même, mine de rien. J'ai pu feuilleter 2-3 pages du numéro 4, effectivement, et numéro 5, et ça a l'air cool quand même. J'avais pas du tout aimé le début, mais graphiquement, ça reste toujours très beau. Voilà, ça a l'air d'être assez gratuit, on va dire.
Barry.
Ah bah, on nous annonçait quand même le most brutal epic fight scene ever.
J'essaierai de rattraper pour le numéro 6.
Of the world.
Of the world, of the universe, of the continuity. Voilà.
Motherfucker.
Ne pas l'oublier, celui-ci est très
come
important.
Get
ah oui, come get some.
Yeah, piece of cake.
Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas sur les sorties de la semaine. C'est pas brillant, pour tout en tout cas.
Bah, parlez pour vous.
Ah, comment il nous a soufflé et
non,
tout.
On parle pour
là.
Nous,
ouais,
pas pour
ouais.
les auditeurs du coup. Donc
c'est un rebelle et tout. Moi je dis plus rien, hein. Il est violent, hein. Il est capable de me casser la gueule.
Il va nous faire lire du Secret Wars.
Oui, tenez, je vais vous accrocher à une chaise et
non,
vous obliger à lire ça.
Oh putain, pire qu'à Guantanamo quoi. Oui, carrément, je n'ai pas peur des comparaisons. En tout cas, comme d'habitude, vous nous retrouvez la semaine prochaine pour une prochaine dose de review, pour une prochaine dose de news aussi, sur l'antenne de Synops Live en direct, le mercredi soir à 21h. N'oubliez pas, dimanche à 20h30, le podcatch. Le podcatch avec Mister
René
Benny et
Jonath.
À ne pas manquer, on va réagir notamment à Fastlane, ce dernier pay-per-view extraordinaire. Voilà, c'est demain. Hein, si vous nous écoutez samedi.
Oui, si vous l'écoutez dès la sortie, oui, c'est demain soir. Et puis le Comics Weekly devrait être le Comics City, pardon, qui a pris un peu de retard. Je l'ai annoncé dans le dernier Weekly News suite au fait que j'ai eu mes parents à la maison quelques jours, donc je n'ai pas eu le temps de monter l'émission, mais il devrait être sorti normalement hier, si tout va bien. J'espère que c'est le cas. Voilà. Oui.
Et puis si vous avez raté une émission, vous pouvez la retrouver en replay
sur iTunes.
Sur iTunes, et si vous ratez le podcast, il sera mis aussi hein,
sur synopslive.net, évidemment.
Sur Synops Live, voilà, exactement.
Vous le retrouvez aussi, les émissions sur comiccity.fr, évidemment. Le Twitter, @comiccity, la page Facebook, un petit j'aime, et puis n'hésitez pas à partager un peu la page, à partager les liens, à partager les articles, les podcasts, tout ça, blablabla, vous connaissez le principe des réseaux sociaux. Rappelons qu'on a aussi un Tumblr ouvert depuis peu. Et enfin, les mails, podcast@comiccity.fr.
Eh oui, .fr.
Posez-nous vos questions, etc. Et on y répondra dans les weekly news.
Et si vous aimez le site, n'hésitez pas, la page Tipeee, qui ne demande qu'à être remplie de jolis sous-sous.
C'est horrible. Dit comme ça, je trouve ça horrible.
Les sous-sous dans la poche.
Ben oui.
Les sous-sous dans la popoche
de Bruno.
On se retrouve donc la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien, n'hésitez pas à réagir aussi à l'émission dans les commentaires, évidemment, même si on n'y répond pas toujours, en tout cas, tous sont lus.
Tout à fait.
Évidemment. Évidemment. On n'a pas forcément le temps de répondre, mais en tout cas, on les lit tous.
Avec intérêt, et bien sûr, on fera le contraire de ce que vous demandez. Voilà.
Parce qu'on est comme ça, on vous aime. À la semaine prochaine et comme d'habitude d'ici là,
portez-vous
bien. Lisez pas de Batman.
Mais si, allez-y.
Ni Spider-Man.
Allez-y. Comme ça vous saurez de quoi on parle et vous pourrez débattre. Blah.